Avant d'écouter un nouvel épisode de Calcio et Pépé, je vous encourage à aller faire un tour sur la boutique Calcio et Pépé. C'est sur www.calcioepépé.shop et vous trouverez des posters en papier, des affiches murales en aluminium consacrées au football italien. Milan, Juve, Inter, Roma, Napoli, la sélection nationale, les grands joueurs des années 80, 90 et 2000. Et encore d'autres posters dédiés au football européen avec plusieurs clubs espagnols, allemands, anglais, français, Ligue 1, Ligue 2 et d'autres sélections nationales, sans oublier même quelques affiches vintage. C'est un moyen de soutenir le podcast et c'est donc à retrouver sur calcioepp.shop.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Totti, lo aspetta Materazzi, Totti si porta quasi in zona tiro, Totti si è liberato, pallonetto, Francesco Totti, un gol pazzesco, pazzesco per il 2-0.
Cacca in percussione, Sciacca l'ingresso in aria ancora, Cacca, davanti al portiere, Cacca, rete, 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 Cacca.
Pallone che arriva, Trezeguet, Dani! Pirlo ancora, Pirlo di tacco, tiro, gol! Prova a girarsi Icardi, destro secco, rete, rete, proprio lui, il capitano, fa esplodere San Siro. Avanti Cavani, avanti Matador, avanti Matador, sei tutti noi Matador, ci provo con il destro,
e la rete, si gonfia la rete, si gonfia la rete, si gonfia la rete, Matador!
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur l'épisode numéro 20 du podcast Calcio et Pépé. Comme chaque semaine, je suis avec Guillaume Maillard-Passini. Salut Guillaume.
Salut Johan, salut à tous.
Alors Guillaume, c'est notre avant-dernier épisode avant la fin de l'année 2018. On en fera un jeudi prochain après une nouvelle journée de Serie A puisque cette année, comme l'année passée, il me semble déjà, il n'y a pas de trêve hivernale. On joue même au moment de Noël et il y a encore deux journées avant le 1er janvier. Donc on fera encore un podcast la semaine prochaine pour essayer de boucler cette phase aller de championnat. On vous prévient déjà que la semaine prochaine on fera un gros focus sur l'équipe type de la mi-saison. Guillaume choisira une équipe, j'en choisirai une également et puis on vous fera voter sur Twitter, on vous fera des sondages pour chaque poste, 4 choix possibles pour chaque poste. Et il y aura donc l'équipe type des auditeurs.
Il y a des jolis noms.
Il y a beaucoup de jolis noms, évidemment. Il y a quelques surprises qu'on peut attendre éventuellement sur certains postes ou dans des gros clubs, ça n'a pas forcément performé au maximum. Mais bon, disons qu'il y aura quand même une certaine logique globalement avec le classement et certaines grosses performances depuis le début de la saison. On en profite, ça évitera de faire le rappel de fin qu'on est disponible sur Twitter. Vous pourrez aller sur ce réseau social pour voter pour l'équipe type de la mi-saison, mais aussi sur Facebook, sur SoundCloud, sur iTunes, sur Google Podcast, sur Deezer et sur Spotify. Alors Guillaume, programme riche une nouvelle fois puisqu'on n'a pas fait de podcast la semaine dernière et on a quand même pas mal de choses à voir ensemble. Je te propose de commencer par le choc de la journée. Qui a eu lieu, donc c'était dimanche soir, non c'était pas dimanche
non.
soir, samedi soir.
Le vieux réflexe.
Eh oui, le vieux réflexe. Le réflexe du choc le dimanche soir, oui, parce qu'on enregistre ce podcast, on est donc dimanche après-midi.
Eh oui.
Et le choc de la journée, c'était donc hier soir à 20h30 entre la Juve qui recevait la Roma.
Et la Juve a encore gagné.
La Juve a encore gagné. Alors, Juve est champion d'automne. On va faire un petit point stat quand même pour montrer que l'impression laissée est absolument phénoménale. 8 points d'avance donc sur le Napoli, après seulement 17 journées, hein, 16 désormais sur l'Inter, donc autant dire que l'Inter est définitivement écarté de la course au titre, et donc que maintenant, seul le Napoli peut empêcher la Juve d'être sacrée. Une petite stat que j'ai trouvée dans la presse italienne ce matin, qui est fort intéressante, 36 matchs de championnat joués en 2018 par la Juve, 22 clean sheets.
Ah, j'ai vu.
Donc ça, c'est assez colossal. Et seulement 8 buts encaissés depuis le début de la saison en championnat. Donc, un but tous les deux matchs. Et encore, on n'arrive même pas à ce taux-là. Le dernier but encaissé en championnat, par exemple, pour vous situer un petit peu, remonte au 3 novembre dernier. Face à Cagliari, sachant qu'entre-temps, ils ont joué quand même un petit peu l'Inter, la Roma et d'autres formations pas forcément évidentes. Donc voilà, la Juve survole évidemment la Serie A. On n'a pas attendu le match de ce week-end pour le savoir, mais ça a été une énième confirmation avec une Juve qui a quand même largement dominé la Roma, sans un Robin Olsen de très bon niveau, avec de beaux arrêts, il aurait pu avoir 2 ou 3 buts d'écart.
Ouais, c'est bien rattrapé Olsen, hein, parce qu'il vient de période un peu...
Bah, en fait, voilà, c'est classique d'un gardien qui a un jour sans et qui fait 2 grosses erreurs.
Exact.
Contre le Genoa, et alors il y en a une catastrophique puisque ça offre un but, la deuxième a failli coûter un but, mais la VAR avait annulé la boulette au final. Mais là, il a fait quand même des arrêts face à Cristiano Ronaldo et Alexandro notamment, de grande classe. On sait même pas par où commencer avec la Juve en fait. Je me suis dit en fait, la Juve est simplement meilleure partout, meilleure que les autres partout, donc ça veut dire sur la mentalité. Ça, c'est un point qui est essentiel pour expliquer pourquoi la Juve gagne et continue de gagner. La densité physique, on l'a encore vu hier dans les duels, il y a des joueurs romains qui explosent alors que ceux de la Juve sont tranquilles. La culture tactique, évidemment avec Allegri en maître d'orchestre. Le niveau individuel des joueurs, évidemment, on n'a pas Cristiano Ronaldo dans toutes les équipes non plus de Serie A, ou même un Alexandro sur le côté gauche, et puis la cohérence de l'équipe. La façon dont elle s'exprime collectivement, voilà, tout est simplement plus fort à la Juve.
Mais est-ce que, alors je vais te poser une question un peu polémique,
oui.
Je me lance, est-ce que tu penses que si la Juve, imaginons, sort contre Atlético Madrid en 8e Ligue des Champions, est-ce que tu penses que la saison de la Juve, parce que là pour le moment elle est, on va dire, parfaite,
On
est quand même sur du jamais vu, est-ce que tu penses qu'on pourra parler de saison ratée pour la Juve si elle se qualifie pas face à l'Atlético? Pas facile, hein.
Saison ratée, c'est peut-être beaucoup dire, mais elle sera pas réussie en tout cas.
Ouais.
Je joue un peu sur les mots, mais quand t'es sacré champion d'Italie, tu peux pas dire que ta saison elle est ratée, c'est impossible. Maintenant, tu peux pas dire qu'elle est réussie non plus par rapport aux attentes que t'avais en Ligue des Champions. Si la Juve sort, bien sûr, on espère que ça ne sera pas le cas. Mais là, ce qui va être intéressant pour eux, je pense que t'es d'accord avec moi, c'est qu'il y a une telle avance. Il y a un tel confort, c'est que maintenant Allegri, mais il a déjà commencé à le faire depuis le début de la saison, mais il peut continuer. C'est vraiment gérer l'état de forme des joueurs.
Et surtout qu'il a les remplacements à la hauteur.
Oui.
Je veux dire, il a un effectif assez pléthorique, donc même s'il change, voilà, le niveau baisse pas forcément. Même des Chilos, j'ai pas toujours trouvé au top. Bon, hier, voilà, il fait la passe D, donc même des Chilos, tu vois, voilà, et au niveau, et voilà, c'est un bon joueur aussi qui fait ses matchs. Après, comme tu dis, l'avance qu'ils ont maintenant sur le Napoli, qui est quasiment le seul concurrent, parce que l'Inter a 16 points, donc bon, ça me paraît un peu compliqué. Mais c'est vrai que par rapport à des champions, par rapport à la grosse double confrontation à l'Atlético, pardon, c'est vrai qu'ils vont pouvoir gérer un point en championnat, ils ont l'avance pour. Après, le Napoli lâche pas quand même, ils sont toujours là. Bon, tu vois, hier, à l'espace de quelques temps, ils ont été à 5 points. Mais bon, voilà, vous savez bien que le soir, de toute façon, la Juve les reprendrait sûrement. Mais c'est vrai que bon, hier, c'était la Juve qu'on connaît, même si la Roma n'a pas été décevante. Mais c'est vrai que bon, après, j'ai trouvé Pjanic un peu en dessous.
Oui.
Il a encore été sorti. Il n'a pas été parfait. Mais c'est vrai que sinon, après, on prend ces victoires de la Juve comme d'habitude. Alors qu'avec du recul, avec même quelques mois plus tard, d'ici quelques mois, on se dira quand même qu'on a assisté quand même à quelque chose d'incroyable, parce qu'ils ont ils ont un chemin qui est incroyable. Ils gagnent quasiment tout. Ils ont fait un match nul face au Genoa. Bon, on est sur un truc qui est quand même hallucinant. Alors, forcément, on est dans le moment, du coup, on n'a pas beaucoup de recul sur la situation. Mais je pense que d'ici quelques mois, voire quelques années, on se rendra vraiment compte de ce qu'est en train de faire la Juve, qui est quand même assez exceptionnel.
Et tu parlais de Pjanic tout à l'heure, c'est la force aussi de la Juve. C'est-à-dire que Pjanic est pas bon, tu fais rentrer Emre Can. Si Matuidi est pas bon, tu fais rentrer Betancourt. Bonucci a besoin de souffler, tu fais rentrer Benatia. Si Mandzukic a besoin de souffler, tu fais jouer Douglas Costa. S'il faut faire reposer Ronaldo, tu fais rentrer Bernardeschi.
C'est impressionnant. Ils ont deux équipes. Hein.
Voilà, ils ont deux équipes clairement, et là, ils sont dans un confort le plus total avant de jouer les grandes échéances, c'est-à-dire ne pas arriver trop cramé avant le match de Ligue des Champions, avec une certaine fraîcheur à la fois physique mais aussi mentale. Et quand t'as 8 points d'avance et que t'es pas en pleine bataille pour garder ta première place ou pour la lutte pour le Scudetto, ou que t'es dans la position du chasseur où t'as des points de retard qu'il faut aller chercher, gratter, etc., qui peuvent t'épuiser un peu nerveusement, là c'est vraiment pas le cas, et c'est une des forces de la Juve cette saison. Alors on a une question sur Twitter de Kams qui nous dit: est-ce que Naples peut concurrencer la Juve? En gros, le seul club qui peut empêcher la Juve d'être sacrée.
C'est compliqué. On va dire qu'il lâche pas. Il lâche pas prise, mais quand l'équipe de devant va à ce rythme-là, ils ont fait un match nul. Enfin, ils ont tout gagné. Et un match nul face au Genoa, voilà, hein, c'est un peu improbable par rapport à. On se rappelle, c'était un peu relâché en fin de match. Mais là, la Naples, bon, ils font leur chemin aussi, mais. Quand t'as la Juve devant qui lâche quasiment rien, ils dévorent tout sur leur passage, c'est quand même impressionnant. Et moi, ce que j'aime aussi chez la Juve, c'est que tous les joueurs ont encore faim de gagner des titres. Alors que voilà, en Italie, on parle beaucoup de panciapiene, hein, c'est-à-dire un ventre plein. Voilà, c'est compliqué de toujours se mettre en question et toujours vouloir gagner. Et c'est vrai que les joueurs qui ont déjà tout gagné à la Juve, et chaque année, comme Chiellini, quelqu'un comme Bonucci qui est revenu et forcément qui a tout approuvé à ses supporters et qu'il était en froid. Enfin, et voilà, chaque année, à chaque mercato, ils te mettent 2-3 joueurs frais, nouveaux en plus. Bon, cette année, il y a Cancelo, il y a Ronaldo, il y a Emre Can. Et chaque année, c'est comme ça que la Juve se renouvelle aussi. C'est que les nouveaux joueurs ont faim de titre. Et du coup, ils aident ceux qui ont déjà tout gagné à vouloir toujours plus. Et c'est vrai que bon, voilà, la mayonnaise a pris. Et pour le moment, c'est assez impressionnant.
Je sais pas si tu as vu, il y a eu une interview de Capello avant le Juve Roma. Ouais. Je me souviens plus dans quel média c'était. Mais où il expliquait, en gros, il faisait la comparaison entre les deux équipes, puisque Capello a joué et entraîné les deux équipes.
Oui.
À chaque fois, et il disait clairement, tu parlais de Chiellini, il disait à la Roma, il manque un joueur comme Chiellini. Voilà, oui. Un patron qui va te permettre de guider les jeunes quand ils arrivent, en leur disant, ici on est à la Juve, ça se passe comme ça, on n'a pas le droit à l'erreur.
Vers aussi.
Ouais, mais même pas, c'est pas suffisant. Chiellini, il arrive, il lui dit, écoute, on n'a pas le droit à l'erreur. Ici, perdre un match, c'est un drame absolu. On doit gagner tous les matchs. Il y a pas d'euphorie après une victoire, même si c'est contre l'Inter, il y a pas d'euphorie. Même si c'est ton plus grand rival, même si c'est le derby de Turin, pas d'euphorie. On se remet au travail et il suffit de regarder ce matin les comptes rendus de conférences de presse d'Allegri. Hein. De toute façon, on n'a rien à fêter, on n'a encore rien gagné. Voilà le discours. Il y a rien à fêter. On va pas s'emballer, etc. Tant qu'il y a rien de gagné.
C'est le culte de la victoire, ouais. C'est un peu comme Ronaldo, tu vois, la haine de la défaite. C'est ça que d'ailleurs la Juve et la Ronaldo ont bien matché, c'est que il y a une haine de la défaite qui est assez impressionnante, et à la Juve et chez Ronaldo. Et comme tu dis, chaque semaine ils gagnent, parfois forcément ils se relâchent, mais c'est vrai que un match nul de temps en temps ou une défaite, ça peut arriver, mais cette année non. Cette année la Juve gagne tout. Ils ont gagné 18 matchs sur 19. Donc c'est vrai que c'est assez exceptionnel, mais comme tu dis, Allegri est très fort aussi pour te sans conférence de presse d'avant ou d'après match, tenir tous les joueurs sur le champ, et après les matchs te dire on se concentre sur mercredi, parce que mercredi il y a encore un match, et aussi le week-end prochain. Donc c'est vrai que même Allegri a une main de maître sur cette équipe.
Alors pour rebondir sur la question de Clams sur Twitter, je pense qu'il y a une donnée qui sera intéressante, c'est de voir à quel point le Napoli va jouer sérieusement ou pas l'Europa League, puisqu'ils sont reversés en Europa League, et on sait que dernièrement les clubs italiens ont tendance quand même à faire l'impasse sur cette compétition, alors qu'ils ont pendant longtemps été ceux qui la gagnaient à chaque année. Je sais pas si tu as vu les ultras du Napoli, elle a mis une banderole en gros, il faut gagner l'Europa League, il faut être à fond.
Oui, moi
en Europa League, on ne demande que ça.
Ben oui, moi je l'ai dit, j'ai fait un papier sur Eurosport auquel j'appelais, c'est pas du haut de mon 1m80 que je vais appeler quelqu'un, mais j'appelais quasiment le Napoli à jouer sérieusement cette compétition parce que bon, l'année dernière, Sarri avait fait l'impasse sur tout ça et le résultat, elle a rien gagné.
Oui.
Mais c'est vrai que cette année, Napoli a clairement les moyens de. On a vu, ils sont quasiment sortis d'un groupe avec Liverpool et le PSG. Ça s'est joué à la différence de buts. Donc voilà, ils peuvent aller au bout. Ils ont les moyens, ils ont la capacité, ils ont l'entraîneur pour. Après, moi, je pense pas qu'Ancelotti, parce que dès l'après-match du match face à Liverpool, quand ils se sont fait éliminer, il a dit on peut gagner l'Europa League. Comme si vous voulez envoyer un message à ce joueur. Et je pense que le Napoli, moi j'ai mis qu'ils avaient la tête d'un vainqueur. S'il la joue sérieusement avec les armes qu'ils ont, moi je pense vraiment qu'ils peuvent la gagner. Après, il faut que ça joue avec sérieux, faut qu'Ancelotti mette aussi les ingrédients pour. Mais s'il y a un minimum, et si le Napoli joue à fond, moi je vois pas pourquoi il pourrait pas aller au bout.
Alors, ouais. Un dernier point sur la Juve, Guillaume. On ne peut pas ne pas parler de Mario. De Super Mario, le vrai Super Mario Mandzukic.
Il y a un faux. Est-ce que j'insinue qu'il y a un faux?
Il y en a en tout cas des deux qui est en train de devenir un faux Super Mario. Ouais.
Ne pas le copier.
Exactement. Et donc son grand chelem cette saison. Buteur contre la Roma hier, buteur contre l'Inter, contre Naples. C'est un doublé contre Naples, contre le Milan et contre la Lazio.
Impressionnant.
Voilà, les cinq plus gros clubs de Serie A ont subi la foudre, on va dire ça comme ça, de Mario Mandzukic. Pour moi, tu sais, c'est un peu le cinquième membre de l'agence Tourisque. T'as un problème, t'appelles Mario Mandzukic et y a plus de problème.
Mais surtout qu'au-delà de ses buts, et c'est vrai que moi, c'est tout de suite le comme qu'il est adonné qui ressaut aux yeux, mais même soit dans l'attitude et dans la grinta qu'il donne, enfin, c'est vraiment un joueur, quand t'es supporter de la U, c'est un joueur qui t'emmène au combat, quoi. Et même quand t'es coéquipier, tu sais très bien que si t'as un problème, si on joue qui t'es pas loin, tu sais que tu peux être tranquille. Donc, c'est vrai que c'est un joueur, cette année, qui, comme tu dis, a fait grand chelem. Mais voilà, au-delà de ses buts qui sont, importants, parce que c'est quasiment toujours des buts décisifs, en plus.
Ouais.
Il marque pas un but, 4-0, voilà.
La Juve est contre l'Inter, il gagne 2-1-0, 2-1 but.
Ah, contre Milan, il ouvre le score. Donc, tu vois, c'est toujours des buts importants. Il marque pas le but du 3-0, 4-0 qui compterait pour du beurre. Donc, c'est vrai, Mandzukic aussi, t'as raison de le souligner, c'est vrai qu'on en parle, c'est parce que voilà, forcément, les observateurs extérieurs observent toujours, le but de, le Ronaldo, Dybala. Mais c'est vrai que Mandzukic, ça reste impressionnant. Et, on sait que, apparemment, en coulisses, il négocie aussi une prolongation.
La Juve a tout intérêt à
le faire. Oui. Évidemment.
Parce que c'est pareil, tu tomberas pas sur beaucoup d'attaquants de départ, au départ en tout cas d'axe, qui accepteraient de jouer milieu gauche comme il l'a fait.
Comme Cavani avait fait avec le PSG.
Exactement. On va arrêter sur la Juve avec la citation de Max Allegri après le match qui a dit de Mario Mandzukic, il a les caractéristiques d'un joueur extraordinaire et on est bien d'accord. La Juve jouait contre la Roma. Transition. On va donc parler de la Roma maintenant.
Parle-nous de la Roma.
Oui. Parlons de la Roma. Je me suis dit on pourrait faire un focus un peu sur une des rares satisfactions du début de saison, parce qu'il n'y en a quand même pas non plus beaucoup du côté du club romain. Et évidemment le nom qui revient ces dernières semaines, c'est Manolas. Kostas Manolas. C'est assez simple, c'est ce que beaucoup d'autres joueurs de la Roma n'ont pas, c'est-à-dire un état d'esprit et une mentalité qui doivent te permettre d'approcher le très haut niveau. Il est l'un des rares joueurs de cet effectif à avoir ça, à le montrer, à en parler et à le montrer. Ça, c'est deux choses différentes et on sait qu'à la Roma, il y en a beaucoup qui ont tendance à parler et à simplement parler. Dans l'euphorie du club romain, lui il parle et il agit aussi sur le terrain. On va rappeler qu'il était capitaine à Pilsen lors du dernier match de Ligue des Champions, perdu par la Roma. Les supporters de la Roma avaient contesté l'équipe. Il était le seul à être allé à la rencontre des supporters. Il avait le brassard, donc il a assumé son rôle de capitaine en allant se prendre toutes les insultes du parcage romain, etc. Là, il est à nouveau capitaine ce samedi soir face à la Juve en deuxième mi-temps quand Florenzi est sorti à la mi-temps après une énième performance décevante. J'ai tendance à dire qu'il faudrait plus de Manolas dans cette équipe, des mecs de caractère qui donnent tout et prennent leurs responsabilités. Ça fait un peu discours guerrier, un peu bateau comme ça, mais c'est vraiment le cas dans cette équipe. On sait comment elle fonctionne et malheureusement les manques qu'il y a à ce niveau-là depuis une bonne dizaine d'années. Et malgré le pédigré des entraîneurs, hein, ça peut être Spalletti, Ranieri, Di Francesco, des jeunes, des moins jeunes, des mecs avec du bagou, pas de bagou, ceux qui font le bâton et la carotte, toujours est-il que ça manque toujours à un moment donné dans la saison. Et puis il y a un truc aussi, c'est vrai en Italie et encore plus à Rome, c'est que là, comme rien ne va, en gros, pour schématiser à la Roma, et dans les moments compliqués, on aime bien se rattacher à des symboles pour retrouver le sourire. Et ça a longtemps été Totti, évidemment, ton capitaine éternel, pendant plus de 20 ans, celui qui te rendait fier, qui te donnait une espèce de supériorité par rapport aux autres. Ou quand tu te faisais charrier, on disait « Ouais, vous êtes à 20 points de tel club », tu disais « Ouais, mais nous, on a Totti, tu peux pas comprendre », les supporters romanistes, ils disaient « Oui, mais nous, on a Totti, et tu sais pas ce que ça peut représenter un joueur comme ça ». Alors, avec la retraite de Totti, on a essayé avec De Rossi, avec Florenzi, qui sont d'autres purs romains. Et puis, l'année dernière, il y avait Nainggolan, qui était très apprécié, parce que lui avait le même profil que Manolas, c'est-à-dire quelqu'un qui ne lâche rien, qui parlait de son amour pour la Roma dans les conférences de presse ou dans les déclarations ou dans les interviews. À n'importe quel moment, un mec qui donne tout, esprit guerrier, etc., qui a refusé de partir et des grosses offres, qui a prolongé son contrat, etc. Donc maintenant, il n'y a plus Nainggolan qui est parti à l'Inter, on en reparlera tout à l'heure. Il n'y a plus Totti, malheureusement, qui a arrêté sa carrière. Et donc, c'est un peu Manolas qui reprend ce flambeau aujourd'hui. Et quand tu lis les réactions après les matchs de la Roma, de supporters de la Roma, etc., tout le monde te parle de Manolas. Même quand ça va pas bien, on te dit « Ouais, mais il y a quand même Manolas ». Et puis même, si un jour il passe à côté, t'inquiète pas, on va dire « Ouais, mais c'est pas grave ». Ils vont même te trouver qu'il a fait un bon match. Parce qu'il aura au moins tout donné. Donc, par rapport à d'autres qui ne donnent pas cette impression-là, même s'il fait une boulette, ils diront c'est pas grave. On a Manolas.
Mais surtout qu'il est à la Roma depuis quelques temps quand même. Oui. Tu vois, il connaît bien la ville, il connaît bien le club, il sait très bien la période compliquée que traverse la Roma. Il sait toujours que les supporters à Rome, c'est toujours tout noir quand il y a plusieurs défaites dans une telle période. Donc lui aussi, c'est vrai qu'on peut dire que c'est un Romain adoption dans le sens où il connaît parfaitement la ville et que il sait comment ça se passe. Et comme tu dis, moi Manolas, j'ai toujours bien aimé le joueur, même sur le terrain. Il a toujours fait ses matchs. Il a connu une période un peu plus compliquée, même en début de saison, il était pas trop bien. Mais c'est vrai qu'il est bienvenu et le fait de le porter brassard, tu vois, moi je trouve que ça choque pas forcément parce qu'il a même il a le charisme pour, il a la leadership. Donc c'est vrai que c'est pas étonnant de le voir capitaine. Il y a été hier après la sortie de Florenzi. Donc moi c'est toujours un joueur que j'ai trouvé très très bon. Il est très fort dans les anticipations et les duels. Et contrairement à ce que beaucoup peuvent croire, il a aussi une belle pointe de vitesse.
Oui.
Parce qu'il anticipe beaucoup les attaquants adverses.
Il rattrape beaucoup d'erreurs, notamment de Fazio cette année, dans la profondeur. Oui.
C'est vrai que Fazio n'est pas au meilleur de...
Non, de sa forme.
De sa forme. Mais oui, c'est vrai, moi je suis entièrement d'accord avec toi sur Manolas. C'est vraiment un joueur qui peut représenter aussi la Roma au-delà du simple terrain. Donc, depuis le départ de Totti, depuis les adieux de Totti, comme tu dis, les supporters ont besoin de se rattacher à quelqu'un. Et c'est vrai que au-delà de Florenzi et De Rossi, qui restent deux symboles quand même de la Roma et du romanisme, c'est vrai que Manolas c'est aussi un beau symbole du club.
Et puis un autre joueur qui a été au niveau, alors concrètement, si on fait un peu l'analyse du match hier, en regardant les performances individuelles, il y a Olsen évidemment qui a été élu homme du match, homme du match côté Roma, j'entends. Meilleur joueur de la Roma en l'occurrence, y a Manolas, et puis le troisième que je mettrais, moi, c'est Zaniolo. Et c'est aussi problématique de se dire que c'est un gamin de 19 ans qui a les caractéristiques que certains joueurs de la Roma, certains cadres, certains joueurs plus expérimentés n'ont pas, et notamment cette densité physique, le volume de jeu, la technique, la mentalité. Il réussit à avoir un peu tout ça, Zaniolo. C'est quand même son deuxième gros match face à un gros concurrent. Il avait été très bon contre l'Inter.
Oui.
Il y a quelques semaines, là, il a encore été très bon contre le contre la Juve. Et hier, pendant le match, je me demandais même si, au final, Lorenzo Pellegrini, qui était excellent avant sa blessure, faut pas oublier plutôt que aller avant sa blessure. Pellegrini est sans doute le meilleur joueur côté romain, peut-être avec El Shaarawy qui était aussi à un niveau intéressant. Mais si Pellegrini va retrouver sa place si facilement, ouais. J'en suis pas persuadé. Alors il sera encore out visiblement pour le match contre Sassuolo en milieu de semaine prochaine. Donc la question se reposera sans doute en 2019 et pas avant. Mais Zaniolo est en train de, comment dire en Italie, de prendre le poste, ouais. De prendre sa place.
Et d'ailleurs c'est bien que tu parles de schéma tactique de la Roma parce que j'ai une question sur Twitter que je vais te poser. De ce pas,
oui.
C'est Nico qui demande peut-être déjà aborder quel système pour la Roma et quelle équipe après le retour de Perotti, Pellegrini et De Rossi. Qui seront les perdants de ces retours et comment voyez-vous les choses?
Alors, plusieurs questions dans tout ça.
Est-ce que tu veux que je les répète? Non, c'est bon.
Non, je l'ai sous les yeux maintenant. C'est le fameux Nico qui nous suit et qui réagit souvent à nos podcasts. On parlera pas de la question de Don Baldi, hein, évidemment. Voilà, combien foot et poivre vous rapporte absolument 0 euro, cher Don Baldi. Pour revenir à la question de Nico, alors déjà il faudrait que De Rossi revienne, ce qui n'est pas gagné. C'est une blessure au genou chronique qui nécessite beaucoup de soins et de repos. Donc je pense que la saison de De Rossi va être faite de haut et de bas. Dans le sens où les hauts, ça sera quand il sera sur le terrain et qu'il pourra l'être. Et les bas, c'est quand il sera à l'infirmerie. Et je te disais tout à l'heure, avant qu'on commence l'enregistrement du podcast, que moi, j'ai un avis assez, je vais pas dire définitif, mais assez marqué sur la Roma et pour l'observer de près ces dernières semaines, c'est que j'ai du mal à imaginer la Roma remonter dans le classement et prendre moins de buts sans le retour au 4-3-3 de Di Francesco. Je trouve que ce 4-2-3-1 avec ce double pivot mal assorti entre Nzonzi et Cristante ne va pas. Nzonzi, il dézone sans arrêt, il suit tout le temps le ballon et ce qui fait qu'il libère des espaces monstrueux dans son dos. Cristante est souvent porté vers l'attaque parce que c'est évidemment tout sauf un milieu de double pivot. Il est là par la force des choses et des blessures. Et ce qui fait que la Roma défend à 5 en gros à chaque attaque de l'adversaire et c'est pour ça que la Roma prend beaucoup trop de buts. Donc après, ce qui peut être envisagé, la Roma a joué à 3 en deuxième mi-temps contre la Juve, avec Zaniolo un peu plus bas.
Et t'as préféré.
J'ai préféré. Ce qui peut être imaginé éventuellement, c'est un 4-3-3 avec Nzonzi en sentinelle devant la défense, où on lui demande d'arrêter de suivre le ballon et de vraiment se fixer à ce poste-là pour couvrir aussi les espaces que peuvent laisser les autres milieux de terrain. Et surtout protéger la charnière centrale. Et avec Pellegrini à droite, quand il reviendra, parce que Pellegrini a brillé la saison dernière dans un milieu à 3, même si c'était moins le cas en début de saison, il a quand même les automatismes du milieu à 3. Et avec Zaniolo à sa gauche, ça peut être une option. Après, Perotti, je l'ai du mal à le sentir dans l'entrejeu. Je pense qu'il va plutôt aller sur... moi, où je le trouve le meilleur, c'est sur le côté gauche, parce qu'il a des dribbles vraiment déroutants et qu'il n'y a aucun joueur du même profil à la Roma. C'est-à-dire que c'est pas un joueur qui mise sur sa vitesse, mais qui mise sur sa qualité de dribble arrêtée et qui fait des différences assez importantes comme ça. Et puis, donc voilà, donc j'imagine, j'aimerais bien, entre guillemets, voir le retour au milieu à 3 avec Zaniolo, Nzonzi et Pellegrini.
Ouais, de toute façon, Zaniolo, c'est compliqué de l'enlever maintenant. Hein. Au vu des matchs.
C'est ça, disons que maintenant, il est numéro 1 dans la hiérarchie en tant que numéro 10 de cette équipe. Puisque Pellegrini est blessé, quand Pellegrini va revenir, il va falloir retrouver le niveau physique parce que il aura eu à peu près un mois d'absence. Et puis Pastore est numéro 3 maintenant dans cette hiérarchie là, donc
avec Pastore. Hein.
Oui.
Ah,
donc moi je j'imaginerais bien Di Francesco repartir sur un 4-3-3 parce qu'il peut pas se satisfaire de ce qu'il voit avec le milieu à 2 et les espaces, les boulevards qui sont laissés, on l'a vu contre le Genoa, contre Cagliari, contre la Juve. À chaque match, c'est la même chose. Ça peut pas durer comme ça. Donc, il va falloir à un moment donné stabiliser un peu cette équipe et peut-être repasser à un milieu à 3 pour répondre à la question de ce cher Nico. Voilà, je pense qu'on a fait le tour du côté de
ouais, leur. J'ai vu qu'il y avait aussi une autre question.
Oui,
alors,
dis-moi.
C'est sur le sujet d'avant. C'était de Tanguy Soyer. Alors, je sais pas si je prononce bien. Qui dit, pensez-vous que la Juve va finir la saison invaincue? C'est une bonne question, hein. C'est une très bonne question.
Là encore, ça dépendra aussi de... Ça dépendra aussi du parcours en Ligue des Champions.
Exactement.
Parce que avant les gros matchs de Ligue des Champions, là, il y aura un vrai, vrai turnover. Ça, c'est évident. Donc, ils peuvent être amenés à lâcher des points à ce moment-là. Autrement, non.
Ils surtout peuvent très... si, ouais. Surtout qu'ils imaginent, ils vont en finale.
Oui, voilà, quoi, c'est ça. Mais autrement, quand tu vois la qualité de l'effectif, la profondeur de banc, puis ce que je disais tout à l'heure, ils sont supérieurs partout. Il n'y a pas un niveau ou un secteur où ils sont pas supérieurs. Donc, c'est impossible aujourd'hui de dire, voilà, telle équipe va les faire tomber. Ça peut arriver. C'est rare quand même qu'une équipe fasse une saison en étant invaincue, mais ils en sont tout à fait capables.
Exactement. C'est pas impossible. Après, comme tu dis, ça dépendra beaucoup du parcours en Ligue des Champions.
Alors, je vais retrouver une question aussi, puisque j'avais une autre question sur la Roma. Au début, j'avais prévu de faire une session de questions-réponses.
On pourra faire ça, hein.
À la fin, ouais, mais écoute, on a commencé à y répondre sujet par sujet, donc je vais retrouver. C'était une question de Keiko de A, supporter de la Roma, un Corse de A, qui nous dit, les rumeurs sur une éventuelle vente de la Roma sont-elles fondées? Le torchon brûle entre les tifosi et la direction. Ouais. Quel avenir pour le club? Eh ben écoute, les rumeurs sur la vente, oui et non, parce qu'à la Roma, il y en a toujours eu, et même depuis les Américains, l'arrivée des Américains, il y en a eu. Il y a vraiment rien de proche à ce niveau-là. Le torchon brûle entre tifosi et direction, oui, parce que ça se passe toujours comme ça quand les mauvais résultats sont présents. Est-ce qu'on en a déjà parlé lors du podcast qu'on avait fait sur le rachat éventuel de la Roma, où j'avais dit que ce qui va être très important, c'est de voir si le nouveau stade se fait pour l'actionnaire majoritaire aujourd'hui qui est James Palota. S'il n'y a pas de stade au bout, et comme ça galère à faire ce stade, ça pourrait enclencher une vente. Et donc, quel avenir pour le club? Écoute, miser sur le trading encore et toujours, tant que tu n'as pas les ressources financières pour faire mieux, on va dire. Et puis ça dépendra évidemment s'il y a le nouveau stade ou pas. S'il y a le nouveau stade, on l'a vu avec la Juve, et ça permet de dégager des bénéfices vraiment très très importants. Donc ça, c'est une étape importante pour Palota, qui espérait avoir ce stade en 2017. Bon, un an plus tard, il l'a toujours pas, et la première pierre n'a même pas été posée. Donc voilà, l'avenir est incertain, mais pas de catastrophisme, j'ai envie de dire. La Roma a connu bien pire situation et s'en est relevé. Je te propose qu'on passe au sujet suivant, parce qu'on vient de faire quand même pas mal de temps sur cette Roma. Je vois pas mal d'autres questions sur Barella, etc. Ça, on fera peut-être à la fin. On va passer au Milan. Allez, là, c'est toi qui vas beaucoup plus parler. Puisque tu étais très, très énervé, cher Guillaume. J'ai vu une multitude de tweets apparaître dans ma timeline samedi aux alentours de 16h30, 16h45, 17h sur ce fameux Gennaro Gattuso.
Oui. Alors, partons de ce principe-là. Alors, moi, j'ai aucun mal à dire. J'ai toujours eu des doutes sur les capacités du Gattuso entraîneur, parce que l'immense respect que j'ai pour le joueur et le grand champion qu'il a été sont immuables. Mais c'est vrai que je pense qu'on sera témoin. J'ai toujours eu des doutes sur le Gattuso entraîneur.
Oui.
Et même quand ça allait bien.
Bien sûr.
Voilà. Et j'ai toujours eu des doutes sur le jeu qu'il produisait, sur ses idées, sur ce qu'il avait dans l'effectif et sur le rendu qu'il avait après chaque match. Ouais. Et j'ai beau avoir vérifié, si tu vas voir, c'est drôle, tous les matchs du Milan cette année, aucun n'a été gagné facilement. C'est-à-dire que c'est toujours 1-0, 2-1. Rappelle-toi le but contre l'Udinese à la fin, la 97e. Ouais. Le Romagnoli contre le Genoa à domicile, il marque la 96e.
C'est Coutronné contre la Roma à la 95e.
Voilà, exactement. Tu peux te dire que contre Dudelange, ça aurait pu être facile. Mais non, parce que tu te fais mener à domicile 2-1. Enfin, voilà, il n'y a aucun match qui a été gagné facilement. Donc, beaucoup me parlent d'acharnement quand je parle de Gattuso. Pas du tout. Enfin, moi, je suis pas là pour m'acharner contre une personne en soi. Non. Moi, Gattuso, je l'adore. Et vraiment, comme je disais hier, j'aurais vraiment aimé me tromper dans le sens où j'aurais aimé qu'on retweet mes tweets vieux pour dire, tu vois, t'avais tort sur Gattuso. C'est vraiment un truc que j'aurais aimé parce que j'apprécie vraiment la personne. Malheureusement, l'entraîneur me paraît vraiment beaucoup trop limité. Hier, pour revenir sur le match face à la Fio, Déjà que c'était compliqué dans un 4-3-3 avec, on vous rappelle, Calabria qui jouait au milieu de terrain. Bon, quand tu changes, Maori qui a des crampes, donc tu le changes, voilà, t'es obligé de le changer. Et tu passes avec, dans un 4-4-2 avec Çalhanoğlu et Calabria devant la défense. Bah voilà, tu prends un but, je crois, 5-6 minutes après. Donc c'est un changement qui te coûte le match. Voilà. Si tu voulais au moins avoir le nul, il fallait rester en 4-3-3. Taylor qui a toujours la moitié reconnue après le match.
Dans la conférence, il a quand même parlé des crampes, hein, de Maori, je crois.
Oui, oui, mais tu vois, tu peux faire rentrer. Alors, Montolivo, c'est un autre débat, d'ailleurs, qui est un débat qui a été enflammé cette semaine en Italie. Je ne sais pas si tu as vu.
Oui.
Mais c'est vrai que Montolivo, ça a été un débat assez important.
Bah, l'agent du joueur a même parlé dans la presse, hein, en disant qu'il ne comprenait pas.
Écoute, moi, ouais, pour revenir deux minutes sur ce cas-là, je pense qu'il y a vraiment un truc qu'on ne sait pas. Parce que c'est vraiment bizarre, parce que Montolivo n'est pas Pierrot, ne le sera jamais. C'est pas non plus une pipe. Il a été international. Ça a quand même été un joueur important. Il était capitaine du Milan. Donc, de là, est-ce qu'il n'est pas une minute, et tu dois faire jouer Calabria dans une telle situation d'urgence? Moi, j'ai envie de te dire, généralement, le club aussi peut primer sur, enfin, l'intérêt du club doit primer sur les intérêts personnels ou les problèmes qu'il peut y avoir en interne. Tu peux pas te présenter dans un match contre la FIO qui est important avec Calabria au milieu de terrain et te passer le Montolivo, alors qu'il est là sur le banc, il est prêt à jouer. Donc, les justifications de Gattuso d'ailleurs sont un peu bizarres parce qu'il dit voilà, c'est un choix technique. Non, c'est pas un choix technique. Si c'est un choix technique, je monte les au milieu et ça, voilà, ça paraît assez évident à tout le monde. Donc voilà, hier, pour revenir à Gattuso, il fait encore des changements. Bah, quand il fait rentrer Coutrone et l'accepte, il passe au 4-4-2. Bon, bah voilà, et là, il perd le match. Il a voulu le gagner, mais il le perd. Et c'est encore un changement qui coûte le match. C'est beaucoup trop. Il y a beaucoup trop d'erreurs cette saison. Moi, il m'a l'air d'avoir vraiment perdu le fil. J'aurais dans conférence de presse hier, il m'a l'air vraiment perdu, sans solution. Et surtout, au-delà de la crise de résultats, comme lui-même l'a avoué, moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est vraiment la crise de jeu. Moi, j'ai rarement vu vraiment un Milan à ce point-là, dans un tel état de dire c'est de l'anti-football. Il n'y a pas de foot. Dire, on s'ennuie devant les matchs. Il n'y a rien. C'est scolaire, c'est élémentaire. Tu vois, c'est les mêmes phrases qu'on fait depuis septembre, depuis qu'on a commencé le podcast. Et encore une fois, je le disais déjà quand ça allait bien. Donc malheureusement, et je dis bien malheureusement parce que je suis pas content d'avoir raison, j'aurais vraiment aimé me tromper sur lui. Mais voilà, Gattuso, je pense que c'est un entraîneur peut-être qui deviendra grand, mais moi je pense que c'est un entraîneur qui doit entraîner un club moyen. Il a entraîné Pise, Palerme, Crète. Il s'est retrouvé là parce que Montella avait été viré. Et tous ceux qui défendent Gattuso, moi j'aurais vraiment aimé savoir ce qu'ils auraient dit. Si ça avait été Montella, par exemple, à son poste là maintenant, du coup cinquième, t'es cinquième et t'as deux points. Alors tout le monde dit t'as un point à la quatrième, t'es surtout à deux points de la huitième.
Ouais.
Donc d'un côté, on est d'accord que t'es quatrième aussi parce que la Roma et la Lazio n'avançaient pas beaucoup. Voilà, donc c'est plutôt pour le mérite, enfin le démérite des autres que pour ton mérite à toi. Et surtout, comme je te dis, Gattuso.
Alors je me permets juste de te couper un instant parce que ce que tu as dit m'intéresse beaucoup. Sur la comparaison avec Montella,
ouais.
Je suis d'accord sur ton observation, c'est-à-dire sans doute qu'il y aurait eu des commentaires plus violents envers Montella si ça avait été avec le même résultat, je vais y arriver. En même temps, il suffit juste de se replonger un an auparavant, hein,
oui.
Parce que Montella a été viré fin novembre et il était incendié sur les réseaux sociaux, etc., etc., au stade, sifflé, etc. Mais en même temps, je me dis que c'est normal que Gattuso et un peu plus de clémence,
de crédit,
de clémence et de crédit de la part des tifosi, parce que tu peux pas comparer un joueur qui a donné 20 ans de sa carrière, enfin 15 ans de sa carrière, à ton club en étant une des gloires de cette équipe qui a participé au fait de tout gagner, et d'un joueur Montella qui n'avait jamais joué au Milan. Je pense que tu vois, en fait j'ai lu ton tweet hier, je me suis dit tiens, ça nous fera un bon débat ça, parce que tu vois c'est comme si tu disais demain De Rossi arrête sa carrière. Je prendrai pas Totti parce que c'est vraiment à part, mais c'est comme si tu prends De Rossi arrête sa carrière à la fin de la saison et il prend le club ça va pas très bien, etc. Bon, De Rossi aurait plus de crédit qu'un Beppe Iacchini ou que ou que un Gennaro Gattuso par exemple, tu vois, parce que De Rossi est une légende de la Roma, donc quelque part c'est un peu normal.
Je suis d'accord avec toi. Après,
c'est sentimental, moi, c'est pas.
Non,
c'est
non,
pas,
non, évidemment. Mais on n'est pas des robots. Et moi aussi, quand je vois Gattuso dans cet état-là, ça me fait pas plaisir. Mais c'est évident. J'ai été bercé avec Gattuso. Il représentait, en plus, c'était vraiment un joueur qui était. Ah, c'était. On sait très bien que techniquement, c'était pas ça. mais c'était un joueur essentiel dans toutes les victoires et dans toutes les conquêtes qu'a eu Milan à l'époque et tous les titres qu'ils ont gagnés. Donc évidemment, mais moi je pense vraiment qu'il faut différencier le... Alors il faut prendre un peu de recul et vraiment oublier, enfin oublier, pas oublier, mais vraiment faire la part des choses. Imagine Gattuso tombé dans série B là maintenant, je pense que tu pourras te dire bon, oui, on l'aime bien, mais je comprends ce que tu veux dire. Après, je pense vraiment que tu peux pas non plus aller dans le mur avec une ancienne légende. On a eu Inzaghi, il y a eu aussi Seedorf. Moi, c'est vraiment encore une fois, au-delà des résultats qu'il y a, parce que bon, le classement n'est pas dramatique, mais c'est surtout parce que les autres n'avancent pas. Moi, je pense vraiment que c'est vraiment une crise de jeu. Je pense que, dis-toi que Higuain n'a pas marqué depuis 8 matchs. Ça lui était jamais arrivé en... depuis qu'il arrive en Italie. Moi, ce que je comprends pas, c'est que tous les
ils
joueurs.
Ils reçoivent peu de ballons en même temps, hein, les attaquants.
Mais oui, mais évidemment. Mais alors, tout, comme je l'ai tweeté hier, Higuain n'est pas irréprochable dans son attitude. Bon, on va pas se mentir. Je pense qu'il joue blessé parce qu'il est vraiment pas, il est pas en condition de se présenter sur un terrain. Il est vraiment pas à la hauteur physique.
Ou alors, il a trop mangé de panettone.
Tu crois? Mais voilà, comme tu dis, je veux dire, Milan est en train quand même de gâcher Gonzalo Higuain, qui est quasiment le meilleur attaquant de Serie A. Alors, il y a Icardi, il y en a d'autres. Mais Higuain, c'est 20 buts minimum par an depuis 10 ans. Et là, il n'arrive pas à en mettre un. Il n'a pas d'occasion, ça le frustre, il est énervé. Et forcément, on découle ce qu'on est en train de voir. Mais tu peux être sûr que si Higuain, et honnêtement, ce qui paraît quand même de plus en plus probable, va partir à Chelsea en janvier, ce serait quand même incroyable.
Ouais, ça serait un sacré désaveu quand même pour.
Mais
pour
comme Milan comme aussi, l'a hein. été comme l'a été Bonucci d'ailleurs.
Bien sûr.
Regarde, tous les joueurs qui arrivent à Milan n'arrivent pas à bien jouer. Çalhanoğlu, on est d'accord que c'était un bon joueur. Il est plus à la hauteur. Il est pas bon.
En fait, entre Montella et Gattuso, tu vois, il y a une différence. Il y a la même crise de résultats et d'identité de jeu, mais il y avait une différence, enfin une excuse que les deux pouvaient avancer. Montella, c'est que il avait quasiment une équipe entière qui avait été recruté lors de l'été et oui. qu'il fallait construire tout de zéro parce qu'il y avait des Bonucci, parce qu'il y avait Musacchio, parce qu'il y avait Ricardo Rodriguez, il y avait Kessié, il y avait André Silva, Çalhanoğlu, Bilia, enfin voilà, il avait tout le monde intégré et c'était compliqué de partir d'une feuille blanche. Et Gattuso, lui, on va dire l'excuse entre guillemets ou le bémol qu'on peut mettre à ça, c'est la crise de blessure aussi.
Oui.
Parce évidemment. Que c'est vrai que évidemment. S'il avait eu plus de choix au milieu de terrain lors de ce match contre la Fiorentina, mais je suis pas sûr qu'ils sortent Maori pour faire rentrer.
Mais est-ce que vraiment quand il y avait l'équipe au complet, t'avais vraiment vu
non,
des.
Non, bien sûr.
Voilà, tu vois ce que je veux dire. C'est que même au complet, honnêtement, dans le jeu, mais et c'est vraiment, moi, je suis vraiment attaché au jeu, au-delà du résultat. Certes, le résultat compte et prime toujours en Italie, mais c'est vrai que là, depuis le match à Bologne. Oui, c'est strictement, mais quand je te dis rien passé, mais c'est rien passé.
Ah, j'avais regardé zéro. Les expected goals, j'avais bien rigolé sur ce match.
Ah, mais je te promets, mais il n'y a rien eu. Et là, hier, alors oui, comme tu dis, il est blessé, et forcément, c'est, ça joue. Évidemment, quand tu perds Bonaventura, quand tu perds Bilia, quand tu perds, évidemment. Mais moi, j'ai envie de dire, quand Higuain n'arrive pas à mettre un but, est-ce que tu dois vraiment te poser la question sur un attaquant comme lui, ou plutôt sur toi-même? Dans le sens où tu n'arrives pas à mettre en condition. Et d'ailleurs, Paolo Condol, le journaliste de la Gazzetta, qui est maintenant consultant à Sky, lui a posé la question. Il disait à Gattuso, il disait, mais au-delà de la crise d'Higuain qui arrive à marquer, moi, ce que j'ai vu aujourd'hui, donc il disait ça, je cite, il disait, moi, ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est que il y a aucune trame et aucun jeu pour arriver à la surface adverse. Et donc, Higuain n'a pas une occasion, pas un ballon. Et encore une fois, il n'est pas réprochable. Mais quand tu as un joueur comme lui, tu arrives à même gâcher. Je veux dire, moi, honnêtement, hein, tu peux mettre qui tu veux, alors là. Tu peux mettre Lewandowski, tu peux mettre Benzema, tu peux mettre Morata, tu peux mettre qui tu veux. Je suis persuadé qu'il fera pas mieux. Parce que, toi, comme moi, on sait très bien ce que représente Higuain en Italie, en Serie A. Sur le plan européen, mondial, c'est encore différent parce qu'on, voilà, on sait les échecs avec l'Argentine. Et en Ligue des Champions, et encore, en Ligue des Champions, c'était quand même mieux avec la Juve parce qu'on se rappelle à Tottenham. Il avait fait un très bon match. Donc, sur le plan européen, c'est encore autre chose. Mais on sait très bien, toi et moi, qu'en Italie, Higuain, c'est quand même l'un des du top bien 3 des attaquants. Et je veux dire, s'il n'arrive pas à mettre un but, c'est vraiment qu'il y a une raison. Et s'il part en janvier, honnêtement, moi, je l'en voudrais même pas parce que je suis conscient de la situation dans laquelle il est. Et je pense que lui aussi savait, hein, il savait très bien que ce serait pas la Juve, hein, Milan. Mais je pense qu'il se doutait pas qu'il aurait pas une occasion dans le match, quoi. Il a eu une petite tête, mais voilà, c'était pas grand chose. Donc, moi, je pense vraiment que.
Je te coupe. Dis-moi. J'ai retrouvé les expected goals de Milan à Bologne. Donc, on était quand même sur du 0,67.
Non, mais.
Et, face à la Fiorentina, on est quand même sur du 0,72.
Voilà. toi qui es fan des expected goals et qui regarde souvent, t'as déjà vu ça beaucoup de fois.
Sur des équipes de milieu de tableau, oui, mais en l'occurrence, ça devrait pas être une équipe de milieu de
tableau. Voilà, moi, je suis content, façon de parler, que Milan soit plus quatrième, parce que c'est quatrième place, ça cachait vraiment l'arbre. C'est l'arbre qui cachait la forêt. Dans le sens où on disait, oui, on gagne pas, mais on est quatrième. Non. Si la Roma et la Lazio faisaient leur petit bonhomme de chemin comme ils devraient faire, je pense qu'à l'heure là, ils auraient 5-6 points d'avance, hein. Au moins. Ouais. Alors, Milan ne doit pas pleurer sur les autres, hein, c'est pas de sa faute. Justement, ils devraient en profiter. Ils ont deux occasions d'en profiter. Hein. Ils l'ont pas fait. Maintenant, ils sont cinquième et ils sont à 2 points de la 8e place. Et derrière, c'est encore très serré, hein, parce qu'il y a encore le Torino, la Samp, la Talenta, la Fio. C'est une grosse course, hein, qu'il y a cette saison. Mais voilà, la question, c'était un peu tout au stop ou encore. Écoute, moi, je sais pas ce que tu en penses. Moi, je dis stop, mais vraiment.
Alors, si tu dis plaisir, stop, hein. Si tu dis stop, tu mets qui?
Oui. Écoute, je pense vraiment à Laurent là.
Peu je pense importe. Vraiment à Laurent Blanc.
Eh, mais Jean-Luc Gasset n'est pas libre.
Ah, c'est vrai.
Et tu sais,
parce que c'est une question de Antonio Lassala sur Twitter. Pensez-vous que le Milan AC doit changer d'entraîneur?
Bah, pour toi, commence.
Ah non, c'est toi. Ah non, non, tu assumes. Je te pose la question. Tu assures la réponse.
Oui. Pour moi, oui. Mais encore une fois, je veux vraiment pas que mes tweets, que oui, c'est vrai que des fois je peux comprendre que je suis un peu lourd sur ce sujet, mais c'est vraiment aussi pour le bien de Gattuso, parce que je le sens vraiment perdu et il adore Milan, il aime Milan, c'est son club, mais il voit bien qu'il arrive plus, il est perdu dans ses choix, les lectures du match sont désastreuses. Hier, il perd le match en passant en 4-4-2. Rends-toi compte quand même qu'au milieu, certes les blessures, mais tu fais jouer Thiago Calabria. En 4-4-2, enfin c'est ouais. Et Calabria d'ailleurs, petite anecdote qui connaît le changement, enfin le double changement contre Naxalt, la sortie d'José Maury de surcroît, disait, a demandé à Gattuso, mais t'es sûr qu'on joue, enfin je vais jouer à deux avec Calabria au milieu, tu vois, un peu en rigolant, mais en disant, mais c'est sûr quoi. Il dit, Gattuso a dit, bah oui, on joue en 4-4-2. Et résultat, bah t'as pris un but de Chiesa qui d'ailleurs driblait Calabria. Donc tu vois, c'est un peu, voilà, ça résume tout, mais oui, pour répondre à la question, oui, Milan va changer. Pour mettre qui, ça c'est la grande question, évidemment. Alors moi,
écartons Antonio Conte, je pense, hein, parce que je pense que tout simplement cours, oui. Au niveau de l'aspect financier et le fait que ce soit en cours de saison avec une situation aussi dramatique, je pense qu'il y a aucun espoir.
Oui,
pour,
oui. Mais je pense que c'est la solution à long terme. Milan qui est dans ce tunnel sans fin depuis de longues années maintenant. Le dénominateur commun de toutes ces années sombres, c'est l'entraîneur. Et là, c'est l'entraîneur Seedorf, Inzaghi, Montella, Mihanovic, Gattuso. Voilà, c'est pas la folie. D'ailleurs, si je te demande, Gattuso demain s'en va, d'accord? Ouais. Quel club le prend? Est-ce que tu vois un grand club miser sur Gattuso?
Non, bien sûr que non.
Tu serais pas étonné de le voir.
Je suis même pas sûr qu'il y ait un club de Serie A qui mise sur lui.
Voilà. Parce que faut rappeler que Gattuso a été mis là à la place de Montella. Parce que c'était dramatique.
Et
pourtant,
de la Primavera à l'époque, hein, c'est ça.
Oui, et dis-toi que Montella à l'époque était quand même qualifié en Europa League.
Ouais.
Il avait passé la phase de poule. La Milan s'est fait éliminer contre Dudelange, l'Olympiakos et le Betis. Enfin, faut aussi prendre ça en compte. C'est quand même dramatique.
Alors, donc, oui, parmi les pistes, on a quoi? On a Laurent Blanc, Donadoni.
Donadoni, Conte comme tu dis, non. Donadoni, c'est quand même un nom qui revient beaucoup. Wenger aussi, par rapport à Gazidis. Oui. Mais moi, je pense vraiment qu'au-delà de, bon, moi, tu sais, moi, je suis un grand rêveur, alors, j'aimerais vraiment voir un entraîneur, tu vois, de foot. Moi, quand je vois Dortmund jouer, tu vois, je rêve un jour d'un Lucien Favre. Tu vois, qui te fait vraiment jouer au football. J'aimerais bien voir, Suso, Çalhanoğlu, avec un entraîneur, tu vois, qui t'éclate, qui donne des libertés, comme Higuain, tu te rappelles, il a marqué 36 buts.
Ouais.
Avec Sarri, avec un entraîneur, voilà, très tacticien, Higuain, il te met plein de buts, hein. C'est pour ça que d'ailleurs aujourd'hui il est dans un tel état, c'est que il y a pas le jeu pour, l'entraîneur est pas à la hauteur. Et comme tu dis, s'il y a tout le sang bas, personne ne misera dessus. Donc, pour le remplacer, c'est compliqué parce que Donadoni, alors c'est vraiment le nom qui revient. Ça peut être un bon choix jusqu'à la fin de saison. Mais après, je pense vraiment que Milan doit miser sur un grand coach pour essayer de s'en sortir. Parce que là, ça va pas depuis 5-6 ans. Milan est toujours au même point. Donc, je pense vraiment que Milan doit tenter la carte du grand coach avec une grosse expérience. Moi, j'ai envie de voir Conte. Je sais pas si ça se fera, mais, c'est sûr que c'est le rêve. Et voilà, je pense que vraiment, pour que Milan s'en sorte, enfin, du moins essaie, parce que je vois beaucoup de supporters qui disent, mais on reviendra jamais, on n'y arrivera pas, on sera plus à la hauteur, on jouera jamais le titre. J'ai envie de leur dire, attendez, la dernière carte qui n'a pas été jouée, c'est le grand entraîneur. L'Inter, ils avaient pris Spalletti, qui est au fond du trou, hein. Ouais. Spalletti n'est pas un grand coach, mais c'est au moins un coach confirmé. Et les Arena avec des champions, et l'Inter est quand même maintenant un club assez solide en Serie A. Ils sont revenus quand même, ils ont pris des couleurs. Milan, avec un mec comme Conte, par exemple, comme tu dis, au vu du prix, ça me paraît difficile. Mais un mec, voilà, un entraîneur comme Conte, moi je pense vraiment qu'avec cette équipe-là, avec cet effectif qui est quand même bon, je pense vraiment qu'il y a quelque chose à faire. Donc on verra, mais oui, je pense que Gattuso maintenant doit partir. Là, il joue Frosinone mercredi, la Spal samedi. Bon, s'il gagne pas l'un des deux matchs, je pense qu'à mon avis, ce sera la porte.
Alors, j'ai encore deux petites questions sur Milan pour toi.
Oui, dis-moi.
Tom G26, pensez-vous que les milieux de l'AC Milan, Kessier, Bakayoko, Bertolacci, Mauri, Bilia et éventuellement Çalhanoğlu, sont dignes d'une équipe du top 10, voire du top 6?
Çalhanoğlu, Bilia, oui. Kessié, oui.
Hop. Je mets mon veto sur le deuxième.
je sais. Je l'ai dit rapidement. Mais oui, pour moi, oui. Mais évidemment que. Alors, par contre, ce qui est vrai, on avait parlé avec Christophe Kuchli, je te rappelle, d'un des derniers podcasts, pardon. Et c'est vrai que le milieu de terrain est vraiment un gros problème du Milan, un problème récurrent depuis des années. Il manque une pointure. Il manque beaucoup de choses, il manque beaucoup de qualité. Il y a Paqueta qui va être là.
Le temps qu'il s'adapte. Il est plus un milieu offensif, lui, non?
Oui. Mais attends, on va voir où Gattuso va le mettre. Il est toujours là. Le temps qu'il s'adapte, à mon avis, ça va être compliqué aussi. Donc, on peut pas tout mettre sur lui. Moi, je pense que vraiment, je t'avais déjà posé la question. Si demain, je te demande, toi, Johan, je te dis, sur le papier, sans connaître les prestations, je te dis, prends, l'effectif de la Lazio ou du Milan. Tu prendrais lequel?
Bah, je prends celui du Milan sur le papier.
Voilà. Parce que quand t'as un mec comme Higuain, moi je suis désolé, quand t'as un joueur comme Higuain, honnêtement, tu dois viser le podium.
C'est pas le seul, t'as quand même Romagnoli en défense, t'as quand même
Çalhanoğlu. Kadar, tu n'as pas vu.
T'as quand même 2-3 joueurs de qualité sous
Mais évidemment, moi je suis persuadé que cet effectif est bon, mais je pense qu'il y a toujours en train de vraiment le gâcher. Et comme je t'ai dit, si Higuain n'y arrive pas, c'est pas sur Higuain que tu dois t'acharner, c'est plutôt sur toi-même. Pose-toi la question sur toi-même. Donc le milieu de terrain, non, il n'est pas à la hauteur du grand Milan, mais il est quand même à la hauteur pour jouer la Ligue des Champions. Mais c'est vraiment le secteur, il a raison, qui doit être renforcé dès ce mercato.
Et dernière question qui est plus ou moins liée à Milan. Oui. Rob Dunn qui nous dit « Un retour de Mourinho en Italie vous semble-t-il crédible? Il y a pas mal de coachs qui sont pas sûrs de passer Noël et donc de manger pas des tonnes. Sinon, bon dimanche. » Eh bien écoute, déjà, bon dimanche à toi, Rob Dunn.
Bon dimanche, oui, bon dimanche. Alors à Milan, non, hein. Non, parce que c'est pas possible. Au vu de son passé à l'Inter, au vu de la relation qu'il y a entre les supporters et Mourinho, il était revenu avec le Real, il avait chambré les supporters, donc non. Je te balance la question pour toi et peut-être la Roma. J'ai vu que les supporters aimeraient bien.
Bah, ils aimeraient bien parce que c'est un entraîneur à poigne et qu'il peut te retourner investir. Le problème qui est toujours gênant avec Mourinho, c'est la politique de terre brûlée qu'il laisse en partant, quoi. C'est-à-dire que ton club, il est à moitié flingué quand Mourinho part. T'as des mecs qui s'entendent plus, des mecs qui se prennent la tête. Il y a pas de jeu et on sait combien le jeu est important à la Roma et qu'il y a toujours eu une tradition de football spectacle entre guillemets. D'où le côté romantique, football spectacle et éternel loser. Donc le côté managérial, oui, il faudrait trouver un entraîneur qui a ce côté-là, mais un côté capable de jouer au foot. C'est pour ça que c'est plutôt un Antonio Conte aussi qui serait pas mal à la Roma.
C'est un peu parce le rêve que, de tout le monde.
Voilà, exactement. Donc Mourinho, est-ce qu'il peut revenir? Oui, je pense même que, j'en avais parlé sur Twitter, hein, je pense même que Palota, le président de la Roma, pourrait tenter de faire appel à lui en sorte de coup d'éclat, coup médiatique, si ça se passe mal avec Di Francesco ou si d'ici 1er janvier, il n'y a pas de victoire, ça pourrait être possible. Ouais.
D'ailleurs, le nom qui revient le plus si Di Francesco part, c'est quand même Paulo Sousa. Hein.
Ouais. Ce que je disais, oui, enfin, il s'est un peu tiré une balle dans le pied hier. Sur Instagram, il a mis une photo de lui lors d'un Juve-Roma avec le maillot de la Juve. En disant des bons souvenirs ou je sais pas quoi, donc autant te dire que bon, bah, ça a du mal à passer du côté des Trentins, de la Roma,
genre
de
truc.
Donc voilà, bon, comme ça fait déjà un peu plus de 50 minutes qu'on fait le podcast, je te propose de passer au sujet suivant qui sera consacré à l'Inter. Alors, pour être tout à fait transparent, ni toi ni moi n'avons vu le match en entier de l'Inter.
Oui.
Donc on va pas faire hyper long et parce qu'on préfère parler de ce qu'on voit.
Voilà.
C'est quand même toujours mieux. Ce qu'on peut noter, c'est que encore l'Inter gâche des points sur une pelouse où elle devrait pas en gâcher. Là maintenant, du coup, le titre c'est mort de chez mort. Qui a quand même certains défauts au niveau caractère dans cette équipe et que bah c'est logique, il manque sans doute un ou deux cadres pour éviter d'encaisser typiquement ce genre de but sur la pelouse du Kievo dans les arrêts de jeu. Un défenseur central du Kievo qui a 10 secondes pour effectuer ce long ballon vers l'avant, aucun pressing, personne ne sort pour gêner son long ballon. Ensuite un joueur, je crois que c'est Stepinski, qui prend le ballon de la tête, voilà, qui est tout seul, qui peut tranquillement envoyer un ballon de la tête devant, et puis
pour l'éternel Serge,
voilà, pour l'éternel Sergio Pellissier, zéro marquage, qui part entre deux défenseurs, enfin vraiment c'est
d'ailleurs une absolue catastrophe. Si tu veux, j'ai deux questions.
Allez.
Alors, c'est Piero, avec deux R, donc Piero qui nous demande, alors quel avenir pour Candreva,
aucun,
Perisic, voire Spalletti, au vu des rumeurs qui courent après avec Simeone, sa possible arrivée à l'Inter future. Alors Perisic, on sait qu'il est très attiré par la première ligue. Il l'a dit il n'y a pas longtemps, tu te rappelles.
Il n'hésite pas à le dire d'ailleurs.
Il n'hésite pas à le dire. On sait qu'il a été très proche, c'était l'été dernier, Manchester qui le voulait.
Oui.
Voilà, donc Perisic, ce serait pas impossible, surtout que je pense qu'il est assez bankable quand même sur le mercato.
Ouais, Milan, je pense qu'il a quand même perdu de la valeur. Là.
Oui, évidemment. Évidemment qu'il a perdu de la valeur. Mais je
qu'on rappelle, il a marqué ce week-end et ça faisait 110 jours qu'il n'est pas marqué.
Mais je te parle de club de première ligue. Tu peux au moins doubler le prix qu'il vaut.
C'est vrai.
Est-ce qu'à 50-60 millions, tu peux pas les espérer?
Ah, quand même, ça fait beaucoup, je trouve.
Je sais pas. Manchester, je te dirais, à mon avis, il pourrait les poser pour Perisic. Et l'autre, c'était Candreva. Alors, Candreva.
Aucun. Non, honnêtement, Spalletti le sort tous les 3 mois, tu sais pas trop pourquoi. Non, ça. Aucun intérêt
et,
pour moi.
Et du coup, j'avais donc une autre question. C'est toujours Pierrot, d'ailleurs, qui. Voilà, ça vient un peu avec une autre question. C'était, alors bouge pas, et on m'a demandé de l'avenir de Spalletti. Voilà, c'était Antoine qui demandait aussi des idées pour l'après Spalletti s'il venait à partir.
Vas-y. Je pense pas qu'il partira déjà dans un avenir proche. Oublie pas qu'il a prolongé jusqu'en 2021, je crois. Donc il y a un gros contrat à payer en cas de départ. Et puis même aujourd'hui. Être à 16 points de la Juve, c'est un peu dur, mais quand on regarde ce que produit l'Inter et la qualité de l'effectif, c'est pas indécent d'être à cette place-là. Troisième, écarté de la course au Scudetto, sachant que t'étais vraiment pas loin de passer ton groupe de Ligue des Champions qui était hyper compliqué. Ouais. Non, moi je vois pas de scandale dans ce que fait l'Inter pour le moment, ni dans ce que peut proposer Spalletti. Bien sûr, tu peux espérer plus, hein, mais Guardiola. Mais Pochettino, c'est sûr, mais ça, tu peux le dire avec tous les clubs. Hein.
Mais je pense que voilà, c'est surtout plusieurs choix, tu vois, même en cours de match, qui sont parfois assez. Hein,
oui.
Tu vois, on se rappelle de Politano, par exemple, contre la Juve ou d'autres, qui ont été assez discutés. Mais
je suis pas sûr que la saison se joue là-dessus, en fait.
Non, évidemment. Mais c'est vrai que les choix sont quand même assez contestés. Pour revenir à Simeone, il l'a encore dit la semaine dernière, cette semaine. Voilà, il disait moi, l'Inter, tout le monde le sait, c'est par secret, j'irai un jour. Le problème, on ne sait pas quand. Ça peut être dans 2 ans ou l'été prochain, on ne sait pas. Moi, je pense vraiment qu'un jour il ira, ça c'est sûr. Mais après, voilà, faut voir. Après, rien ne te dit qu'en fin d'année, Simone va partir de l'Atletico. Une fois qu'il aura gagné avec les champions au Vanda Metropolitano, il aura fini sa mission et puis il partira, tu ne sais pas. Mais moi, je pense vraiment qu'un jour, Simone, quand même, ira à l'Inter. Et d'ici le jour-là, écoute, j'espère qu'on sera encore là pour en parler.
Et puis, il y avait une autre question sur l'Inter de Lotto. Comme la marque de l'équipementier, la Juve était chez Lotto, il me semble, quand même à une période. Ça, c'est beau. J'ai une question. Vous ne pensez pas qu'avec un milieu de terrain de classe mondiale, l'Inter pourrait titiller la Juve genre Modric?
Bah, Modric, on sait que ça a été quand même très chaud l'été dernier. Pour le coup, c'était quand même pas des fantasmes, parce que Ozilio l'a répété cette semaine. Ils y ont vraiment pensé, ils ont attendu, c'est pas fait. Moi, l'Inter, l'effectif de l'Inter, j'aime bien. Il y a des lacunes, évidemment, mais moi, cette année, je les voyais quand même un peu plus proche du Napoli. Bon, bah, là, Napoli est en train de prendre le large. Il y a aussi, alors je sais pas si tu vas en parler maintenant, mais il y a quand même le gros problème d'Angolan.
Oui, alors on peut en parler, juste avant de rebondir sur Nainggolan, je pense quand même qu'il manque bien plus qu'un simple milieu de terrain pour concurrencer la Juve, et c'est pas forcément d'ailleurs que sur le terrain, mais c'est toute une organisation de club qui est en train de se mettre en place à l'Inter quand même, et puis aussi un état d'esprit. C'est voilà, il va falloir que le club se remonte les manches et travaille sur ce qui fait la force de la Juve aujourd'hui, c'est-à-dire on gagne un match, c'est bien, mais c'est pas suffisant, faut gagner
le prochain encore mieux. Qu'ils sont l'Inter en mode guérison quand même, hein. Ouais. On se rappelle de l'époque où ils se faisaient éliminer par l'Hapoel Beersheva en Ligue Europa.
Exactement.
C'est il y a pas si longtemps.
Pour ça, je pense qu'il y a beaucoup trop de boulot qu'un simple milieu de terrain pour aujourd'hui concurrencer la Juve. Ouais. Alors Nainggolan, tu voulais parler de Nainggolan, écoute, on a appris juste avant l'enregistrement du podcast que Raja, le ninja, était suspendu de toute activité footballistique pour raison disciplinaire par l'Inter de Milan, qui a donc annoncé ce
choix fort.
Cela par un communiqué. On n'a pas la durée de la sanction. Ce qui est certain, c'est qu'il va évidemment rater le prochain match le 26 décembre au minimum.
Face au Napoli.
Voilà, face au Napoli, ce qui n'est pas un petit match non plus. Et on n'a pas non plus la raison exacte. Alors, je ne sais pas si tu as vu pendant qu'on parlions, Di Marzio a évoqué les raisons, selon lui, de cette mise à l'écart. Et c'est donc des nouveaux retards à l'entraînement ces dernières heures, sachant qu'il avait déjà eu ces problèmes-là toute la semaine. Et donc, en gros, le règlement interne du club prévoyait d'être suspendu. Donc voilà, ça serait des retards à l'entraînement.
C'est quand même un choix fort. Pour le coup, on peut pas...
C'est très fort.
Ouais, on peut pas reprocher à l'Inter de ne pas avoir fait un choix fort.
Parce que c'est ta recrue numéro 1 l'été dernier.
Ouais, et ouais, c'est surtout qu'il revenait aussi de blessure. Donc tu as un match important face à Napoli, enfin même très important. Et tu te passes de Nainggolan. Et donc, l'Inter t'a du point sur la table. Est-ce que l'arrivée de Marotta a fait que voilà, maintenant il n'y a plus de.
Bah, sans doute, hein.
Il n'y a plus de cartes historiques. Parce que c'est quand même pour avoir un communiqué. Ouais. Aussi dur, aussi
laconique en plus, hein. Deux lignes, bim.
C'est le mot que j'allais dire, laconique. On s'entend tellement. C'est voilà, c'est laconique. Donc moi, écoute, ce choix, c'est fort, mais je trouve que ça bien.
N'oublie pas aussi que Marotta avait été à l'origine de la sanction pour Bonucci après la prise de tête avec Allegri. Hein.
Exactement, à Porto, où il avait fini sur la fameuse chaise, tu te rappelles,
dans <Exactement.
la tribune. rire> Mais là, moi, je trouve ça bien que l'Inter aussi tape sur la table. C'est aussi comme ça qu'on crée une institution, enfin, qu'on crée ou qu'on retrouve une institution. Donc voilà, moi, je trouve ça bien. Il n'y a pas de joueur qui soit plus important que le club. Donc, c'est très bien que l'Inter fasse ce choix. Après, Nainggolan, on le connaît, on connaît sa vie, on connaît sa vie privée. On connaît parfois ses déboires. Il y a encore un problème de casino, je crois, cette semaine.
Oui, alors ça, faut toujours se méfier un peu de qui sort les infos.
Oui,
il y aurait quelques problèmes
On va dire qu'il y a quand même quelques problèmes de vie privée ou du moins d'hygiène de vie.
Ouais.
Si tu me, voilà.
Ah, mais ça, il l'assume et il le dit. Ouais,
mais bon, au moins, là, une tarte à 10 points sur la table, peu importe le joueur. Nainggolan, qui est quasiment, comme disait ta meilleure recrue sur le mercato. Donc, non, c'est bien que l'Inter aussi tape du point sur la table avant même un grand match.
Bon, pour rien vous cacher, on avait prévu de parler du contrat d'Icardi d'abord, avant que cette news Nainggolan ne tombe.
Ah, oui.
On reviendra sur Icardi peut-être un peu plus tard.
À mon avis, il n'aura pas prolongé d'ici là. Donc,
voilà, c'est ça. Donc, je pense qu'on a encore un peu de temps pour en parler. Oui. On va passer au Napoli maintenant. Avec
on va s'engueuler sinon.
Ah, par un certain. Comment s'appelle-t-il déjà?
Don Baldi. Je pense que c'est Don Baldi.
Voilà. Je pense que ça va être le nom qu'on va le plus retrouver dans les podcasts prochainement.
Un grand fan de José María Callejón.
Voilà.
On peut le dire.
Il l'adore. Il l'adore. Surtout ces derniers mois, là, c'est son grand amour.
C'est platonique.
Exactement. Alors, le retour d'Alex Meret dans les buts. du Napoli. Alors, il avait déjà joué contre Frosinone, c'était début décembre de mémoire. C'était son vrai retour. Là, il a fait un deuxième match, puisque entre-temps, l'intérim, enfin, pas l'intérim, mais Ospina avait joué en Ligue des Champions et aussi un match de championnat. Je me souviens plus de l'adversaire. C'était à Cagliari. Voilà, c'est ça. Alors, faut rappeler quand même que c'est une des deux plus grosses recrues de l'été dernier à Naples avec Fabian Ruiz. 30 millions d'euros de l'Udinese. Malheureusement pour lui, je crois qu'au bout de 2 ou 3 jours, c'était peut-être un peu plus long, une semaine, je sais plus exactement, de stage d'avant-saison, eh ben, il s'était cassé le bras. Donc, problématique pour un gardien, évidemment. Rééducation, etc. Donc, il n'avait pas pu faire le début de saison. C'est un joueur d'avenir sur lequel compte à la fois, évidemment, le Napoli, mais aussi la sélection. Parce qu'elle se retrouve aujourd'hui, la sélection, avec deux très jeunes gardiens qui peuvent se disputer, aller éventuellement à la place de numéro 1, même si Donnarumma a une grosse longueur d'avance, pardon, sur Meret, puisqu'il a déjà de l'expérience à ce niveau-là. Mais si Meret réussit à être performant et continue les bonnes prestations, comme ça a été le cas face à la Spal ce week-end, puisqu'il a fait un nombre incalculable d'arrêts, dont un sur une tête dans les 6 mètres où il s'étend jusqu'à son poteau pour l'arrêter. C'était un arrêt absolument magistral. Il est quand même élu homme du match sur le Tutto Sport, le Corriere dello Sport et la Gazzetta dello Sport ce matin. Ce qui n'est quand même pas rien. Et puis surtout, moi, c'est la question que je me pose, c'est il revient bien, il est jeune, mais en même temps, Ospina a quand même fait un intérim assez intéressant, notamment en Ligue des Champions. Donc maintenant, il se passe quoi? Parce qu'on rappelle hein, quand même, au départ, ils prennent Karnesis en doublure. Ils prennent Meret pour être numéro 1, mais comme Meret se blesse, bah, ils veulent pas mettre Karnesis numéro 1, et ça se comprend tout à fait. Et donc ils recrutent Ospina à ce moment-là. Donc là, ils se retrouvent avec 3 gardiens, un vrai numéro 3, Karnesis, ça y a pas de doute. Oui. Mais maintenant, il va falloir gérer entre numéro 2 et numéro 1, entre Ospina et Meret.
C'est ce que j'allais te dire. Souligner le fait qu'Ospina a quand même pas été mauvais depuis le début de la saison. Donc c'est vrai que tu vois, finalement, le Napoli se retrouve avec 2 très bons gardiens.
Ouais.
Donc voilà, t'as l'embarras du choix, ce qui est bien. Mais c'est vrai que bon, Meret forcément a plus de futur, a plus d'avenir, comme tu dis, pour la nationale aussi, ça peut être un bon choix. Après ouais, il était freiné par des blessures, mais moi hier, je vais pas mentir, j'ai pas vu le match parce que forcément, je me suis concentré sur le match de Milan aussi pour voir ce que ça donnait. Mais du résumé que j'ai vu, je me suis dit purée.
Ouais.
Ouais, voilà, c'est vraiment le mot qui m'est, enfin, un mot un peu plus brut que purée.
Ouais.
Mais, mais je me suis dit, après, voilà, c'est pas une surprise parce que Meret, on sait que c'est un très bon gardien. Mais ça serait bien aussi que le Napoli, tu vois, trouve son gardien pour quelques années. Mm. Un peu comme il l'a fait avec Donnarumma, même si, voilà, il y a quelques tensions. Moi, Meret, voilà, au Napoli, j'aimerais bien le voir, tu vois, ou m'imaginer d'ici 2-3 ans vraiment sûr, sans blessure. Voilà, ce qu'on sait, ça l'a freiné aussi dans ce début de saison. Mais comme tu dis, c'est compliqué aussi de mettre Ospina sur le banc, qui a quand même été bon. Même en Ligue des Champions, il avait été décisif. Donc oui, c'est vrai que c'est Ancelotti à l'embarras du choix. Après, bon, voilà, Karnesis, pour le coup, il n'y a pas beaucoup de débats à avoir. Mais c'est vrai que bon,
c'est un gardien assez moderne, mais être bon sur sa ligne, une grande envergure, parce que ils font partie des gardiens à plus d'1m90, c'est ce qui est. Il y a quand même beaucoup de clubs aujourd'hui, de grands clubs qui ont des gardiens qui font tous plus d'1m90. Voilà, dans les sorties, il arrive à bien boucher les angles.
Beaucoup d'assurance beaucoup aussi.
Beaucoup d'assurance, hein. Exactement. Il y a quelques secteurs où il peut progresser, notamment dans le jeu aérien, malgré sa grande taille. C'est pas forcément le fait de réussir à toucher le ballon ou non, mais c'est la prise de décision. C'est quand sortir et quand ne pas sortir. Ça, il a des progrès à faire là-dessus, et un peu dans le jeu au pied aussi, parce que c'est une donnée fondamentale. Du Napoli évidemment, même si ça l'est un peu moins depuis le départ de Sarri, mais quand même, il y a des fondamentaux qu'on n'oublie pas du côté du Napoli. Mais toujours dit que ça va être une question pour Ancelotti, qui jusqu'à présent réussit à très bien gérer son effectif pour tous les postes, hein, parce que tout le monde tourne un peu, les attaquants, les défenseurs, les milieux, et ça risque aussi de se poser pour maintenant pour les gardiens.
Après, est-ce que tu penses qu'il va faire tourner, par exemple, faire jouer Meret en Serie A et peut-être Ospina en Ligue Europa?
Je pense que ça serait une gestion intelligente.
Ça peut être aussi une solution, parce que tu sais qu'Ospina aussi, voilà, a de l'assurance, c'est un très bon gardien, donc
puis ça serait un peu injuste aussi de de ne plus jouer du tout parce que l'autre revient de blessure. Alors peut-être que ça a été dealé comme ça dès le départ aussi, hein, on le sait pas. Hein, mais c'est vrai que donner l'Europa League où il y a un peu besoin d'expérience aussi parfois en Coupe d'Europe, ça serait pas idiot de faire jouer Ospina, sachant que de mémoire, il a fait l'Europa League avec Arsenal la saison dernière, si je dis pas de bêtises.
Oui. Après, on sait, après, on sait que le Napoli aurait eu ce problème quand les deux reviendraient. Oui. Enfin, les deux seraient au top de leur forme. Donc,
ça a été anticipé, j'imagine.
Voilà. C'est, je pense que Ancelotti est content d'avoir le choix plutôt que de devoir aligner, voilà, forcément Ospina ou un autre. Donc, c'est très bien que maintenant, il est Meret et Ospina à 100%. Et voilà, moi, je pense que Meret, forcément, peut s'imposer et peut représenter le futur du Napoli.
Alors, pour avoir vu plusieurs parties du match, puisque j'ai regardé le multiplex hier...
Tu t'es régalé.
Je me suis absolument régalé, et c'est vraiment pas ironique pour une fois, mais quand on dit ça, des fois, on est un peu ironique, mais là, non, c'est un vrai régal. Beaucoup de matchs avec beaucoup de buts et des choses très intéressantes. Là, on a vu quand même un Napoli un peu essoufflé, qui avait un... Alors, sans doute un peu la tête au match de l'Inter, qui va être très important, même si maintenant ils ont un bon petit matelas. Mais disons que là, s'ils les battent en milieu de semaine prochaine, là, la deuxième place, elle est quasiment assurée de base. Donc, c'est évidemment un match important. Ancelotti avait fait un petit peu tourner. Et puis, il y a surtout une donnée importante, c'est que Insigne et Mertens ne marquent plus. Ça fait quand même 6 matchs que les deux n'ont pas inscrit un but en Serie A. Donc là, l'homme le plus en forme offensivement en ce moment, c'est Milik, qui était sur le banc hier. Donc voilà, on les sent un petit peu émoussés, un peu moins juste devant le but. Hier, j'ai vu Insigne, Mertens tenter des choses. Voilà, il y a Mertens qui touche le poteau à un moment donné. Je sais même plus si c'est Mertens ou Insigne. Non, je crois que c'est Mertens qui touche le poteau après avoir effacé le gardien. Bon, voilà, c'est des petites choses qui font que ça coince un petit peu actuellement. Et ça explique aussi pourquoi Naples est un petit peu plus poussif sur certains matchs. Naples à l'inverse ne prend plus de but puisqu'en championnat ça fait 3 matchs consécutifs. La Gazzetta titrait voilà la défense retrouvée. Bon, il faut aussi préciser que c'était contre Frosinone, Cagliari et Laspal, hein, donc on attendra avant de tirer des conclusions définitives sur la défense du Napoli et son efficacité quand il y aura des adversaires un petit peu plus huppés à affronter, et notamment dès mercredi avec cette Inter. Mais
est-ce que Insigne et Mertens ont retrouvé la voie du but? Parce que je crois que ça faisait, combien, on en avait parlé en off tout à l'heure, 6 matchs.
Alors, tu n'as absolument pas écouté ce que je viens de dire.
Je t'ai pas écouté?
Bah. Puisque je l'ai précisé. Donc, à mon avis, tu devais être en train de tweeter avec Don Baldi.
Pas du tout. Mais non, je t'écoutais, mais alors j'ai eu un moment d'absence. Un moment d'égarement.
Tu as eu un moment d'égarement, tel le Lucas Piglia du milieu de terrain.
autant pour moi. J'assume, mes responsabilités telles Gattuso après un mauvais changement.
Voilà. Bah écoute, c'est bien. bon, nous n'avons donc pas de questions de ce fameux Don Baldi qui préfère clasher sur football et poivre
que
de venir poser des questions sur son club.
Me fait beaucoup rire. C'est-à-dire que foot et poivre.
C'est ça. Alors, ça très drôle. On passe au pêle-mêle. Alors, le Dolce final avec des sujets un petit peu pêle-mêle. Bah du coup, on avait prévu de parler de Sergio Pellissier. Bon, tu peux en reparler un petit peu.
On en avait déjà parlé la dernière fois, on en a parlé tout à l'heure. Bah, écoute, il marque encore. Il a déjà marqué contre la Lazio. Donc voilà, moi, c'est vraiment un joueur que j'apprécie au-delà de la personne. C'est vraiment on va pas se répéter, mais c'est vraiment quelqu'un de pro. Il fait son boulot. Il est vraiment attaché au Chievo. C'est vraiment, voilà, c'est le symbole et on sent vraiment qu'il a envie de les sauver. On sait que ça va être compliqué, même très compliqué. Voilà, moi je pense qu'à chaque fois que Pellissier a marqué un but, je lui tirais mon coup de chapeau dans le pêle-mêle.
Bon,
écoute, je tenais à le faire.
Il a eu cette phrase hier, on sait qu'il avait été très critique envers Ventura quand l'ancien sélectionneur de la nationale et avait décidé de quitter son poste après 3 matchs seulement au Chievo, en disant que dès le départ il avait eu envie de partir, qu'il assumait rien, etc. Et hier il a quand même dit, nous avons enfin une équipe. Donc voilà, Ventura appréciera. Il faut quand même préciser que le Chievo, alors certes, n'a pas gagné depuis la prise de fonction de Di Carlo, mais a quand même fait 5 matchs et une défaite en 6 rencontres. Et notamment, match nul quand même contre le Napoli, contre la Lazio et contre l'Inter.
Oui. Donc,
c'est loin d'être ridicule.
C'est vrai.
Ensuite, un autre sujet que je voulais aborder de mon côté, c'est Empoli et Beppe Iacchini. On avait été particulièrement médisants à ça.
Surtout toi.
Oui, évidemment, surtout moi. lors de sa nomination, puisqu'il avait remplacé un peu notre chouchou de jeu, entre guillemets,
oui.
Andrea Zoli, puisqu'il faisait très bien jouer Empoli et qu'il avait dû quitter son poste de mémoire après une série de matchs un peu galères où il avait joué la Roma, la Juve et Naples, la Lazio, etc. Ouais. Donc vraiment pas simple. Et là, Empoli s'est vraiment repris depuis... En termes de résultats, alors j'ai pensé à Iachini puisque pour ce podcast-là, puisque j'avais lu une interview de lui dans la Gazzetta dello Sport avant le derby de Toscane contre Florence, c'était une dizaine de jours, où Iachini disait « Je ne comprends pas l'image que j'ai auprès des gens, je ne suis pas un entraîneur défensif, je fais jouer mes équipes, on essaye de jouer au ballon ». C'est pas du tout du Catenaccio.
C'est pour toi, ça.
C'était pour moi, effectivement. Il a raison. Et là, en voyant l'Empoli jouer, je suis tombé deux fois sur leur match, contre la Fiorentina et contre la Samp. Effectivement, c'est loin d'être vilain. J'avais vu contre l'Atalanta aussi. C'est loin d'être vilain. Ça joue très bien. C'est un peu dans la continuité de ce que faisait Andrea Zoli. La seule différence, c'est que certes, ils prennent toujours autant de buts, mais ils en marquent beaucoup. La différence avec Andrea Zoli, elle est là, c'est que de toute façon, ils sont en course pour terminer comme pire défense, on va pas se mentir, ou parmi les deux, trois pires défenses. Mais par contre, ils mettent quand même beaucoup de buts. J'ai noté avant de faire le podcast quand même, on en est à deux buts par match sur les six derniers matchs, donc les six matchs de Iachini, c'est quand même deux buts par match, ce qui est quand même pas mal, sachant qu'ils ont joué l'Atalanta, la Fiorentina, la Sampdoria, donc c'est pas non plus que des... et Sassuolo, je crois, pas que des mauvaises équipes. Et puis c'est quand même 6 matchs, 3 victoires, 1 nul, 2 défaites. Donc voilà, je vais pas faire de mea culpa parce que j'attends de voir quand même un petit peu et que là il y a quand même des matchs qui vont tomber contre le Torino, l'Inter, donc ça risque d'être aussi compliqué. Mais en tout cas, saluer le fait que contrairement à mes craintes notamment, il ne fait pas d'Empoli une équipe ultra défensive. Et que ça continue à jouer au ballon. Et vraiment, ce match entre Empoli et la Samp lors du multiplex était un vrai régal.
D'ailleurs, une question sur Empoli Géac avec un superbe arrobas pomme d'api.
Pomme d'api 94-270. Donc ce monsieur doit habiter, ce monsieur ou cette dame, je sais pas, doit habiter dans le Val de Marne.
On voit que tu connais matériel.
Point géographie.
Et du coup, il demandait que pensez-vous de Ismaël Bennacer.
Eh ben écoute, c'est vraiment pas mal. De toute façon, oui. Je trouve qu'une des forces de cette équipe, c'est son milieu de terrain. Puisqu'il y a le Slovène, alors j'ai du mal un peu à le prononcer parce que je ne parle pas la langue, c'est Zajc, Z-A-J-C, je ne sais pas comment on prononce, que je trouve vraiment intéressant. Bennacer également, qui est jeune, qui a évidemment des progrès à faire, mais que je trouve intéressant. Krunic, c'est pas mal du tout. Et moi, celui que j'aime vraiment bien, c'est le petit Traoré. Ivoirien, Ahmed Junior Traoré, qui sort d'Empoli, je crois, 18 ans seulement, et qui est vraiment très très intéressant. Là, contre Empoli, il a une occasion de marquer sur un tir de loin, qui était un geste technique vraiment sans contrôle, un ballon qui revenait sur lui, pas évident à faire, et c'était assez intéressant. Donc Bennacer comme Traoré ou le fameux Zajc. Voilà, sont des joueurs intéressants et qui pourront sans doute aller un peu plus haut. Tu vois, par exemple, j'imagine bien Bennacer finir à Sassuolo, par exemple.
Oui, oui.
Ou Traoré, visiblement, est déjà suivi par la Roma, donc on verra. Mais c'est des joueurs qui peuvent finir dans des équipes comme Sassuolo, le Torino, le Genoa, la Samp. Voilà, s'ils continuent cette progression-là, avec un côté technique qui est assez intéressant et qui savent jouer ballon au pied. Donc voilà, c'est un joueur que j'apprécie. Ensuite, sujet suivant du Dolce. Alors, je voulais parler de Rogério, notre ami du Rogério, dont j'avais déjà parlé un peu lors du dernier podcast, où j'avais trouvé très en difficulté contre la Fiorentina, qui ratait beaucoup de gestes défensifs élémentaires. Et ben là, c'était un peu la même chose. Donc, Sassuolo, jouait contre le Torino, il y a eu quand même beaucoup de gestes ratés. Il est fautif sur le but du Torino. Il est vraiment pas dans une bonne période, notre ami Rogério. Mais c'est un peu à l'image, je trouve, de ce que fait Sassuolo. C'est-à-dire que quand ils ont le ballon, il y a beau, et c'est les idées évidemment de Zerbi, hein, derrière tout ça. Mais quand il a des joueurs qui correspondent aussi à sa philosophie de jeu, quand ils ont le ballon, ça se passe toujours très bien. Quand ils l'ont pas, c'est un peu plus compliqué. Notamment des défenseurs qui ont quand même des ratés sur des types d'actions vraiment classiques pour des défenseurs. Défendre sur un centre à l'opposé, gérer la profondeur, l'alignement défensif.
Beaucoup de naïveté.
Ouais, exactement. Beaucoup de petites choses qui ne vont pas, et Rogério, on a un peu le symbole. Tu voulais parler ensuite de notre ami Christophe Piątek.
Oui, qui retrouve le but.
Oui.
On sait qu'il y a une période où c'était un peu compliqué, dû aussi au fait que le Genoa a changé plusieurs fois d'entraîneur, avec le retour de Juric, retour express, on peut dire.
Oui.
Maintenant, il va prendre des lits, et c'est vrai que Royal, que j'ai vu, parce que voilà, forcément, j'ai vu le résumé. Il avait l'air quand même d'avoir retrouvé un peu d'allant, si je puis dire, et d'avoir retrouvé. Voilà, on est content aussi qu'il retrouve le chemin du but. On se doutait bien que voilà, il a un peu surperformé durant les premières journées, enfin durant les 10, 11, 12 premières journées. Après, il s'est un peu calmé, mais c'est vrai que bon, je pense que on avait visé combien ? Je pense qu'on avait visé 20.
But, peut-être une vingtaine de buts.
Il
en a 13 ans.
Il en a 13. Bon, je pense qu'on n'est pas si loin. Il reste tous les matchs retour à faire. Donc, on est content aussi de le voir un peu plus. Il a un peu retrouvé son jeu, il est un peu plus souriant. Donc voilà, il est marqué contre la Roma aussi, il me semble, sur la fameuse erreur de. C'est lui qui marquera sur la fameuse erreur de Olsen.
Absolument pas.
Ouais. Pas ? Non.
Je t'ai laissé, mais c'est pas lui qui marque sur la boulette de.
Ah, je crois que c'était lui.
De notre ami Olsen, c'est. C'est lui. Non, il me semblait que c'était. il me semblait que c'était Hiljemark qui frappait. Non, c'est Piątek.
Alors, s'il te plaît.
Qui a marqué le premier but? Eh bien, écoute, c'est peut-être.
Est-ce que j'avais raison?
Écoute, as-tu le moyen de faire une vérification rapide?
Et ben écoute, je vais regarder de ce pas.
Il va falloir que je meuble. Donc si tu veux, je peux meubler pendant ce temps-là.
C'est Piątek. 17e minute.
D'accord. Bon bah écoute, voilà. Je m'incline.
Bah voilà, tu m'as coupé dans mon élan.
Voilà, tu disais qu'il avait marqué contre la Roma aussi.
Oui, mais non, mais voilà, il retrouve le but. On est content et voilà, merci.
Merci.
Mais tu as totalement coupé là.
C'était somptueux. Autre sujet, trois joueurs dont on avait parlé un peu négativement depuis le début de la saison et qui retrouvent un peu des couleurs. Milinkovic-Savic, Ivan Perisic et Federico Chiesa. 3 mois que Milinkovic-Savic et Chiesa n'avaient pas marqué. Quasiment 4 mois pour Perisic. Et les 3 marquent lors de la même journée. Ça, c'est assez beau. Notamment Milinkovic-Savic, c'est intéressant parce qu'avec Luis Alberto, ils ont été parmi les 2 meilleurs joueurs de la Lazio contre Cagliari. C'était en ouverture de la journée.
Midi 30.
Et ça va être vraiment très important pour la Lazio qui sortait quand même de 7 matchs sans victoire. Avec une petite crise aussi, les relations toujours tendues entre l'entraîneur et le président. De toute façon, avec Lo Tito, c'est toujours compliqué, quel que soit l'entraîneur. Mais voilà, ça va être très important pour la Lazio, à la fois pour l'Europa League aussi, parce qu'on compte sur le club italien pour bien représenter l'Italie, et aussi en championnat où la bataille pour la 4e place s'annonce particulièrement serrée.
Et pour parler de Chiesa, qui a retrouvé le but aussi, pour le coup, il a fait un sale match. Hein.
Ouais.
Très sale match. Vraiment dans l'attitude, il a été nonchalant, il a perdu beaucoup de duels, il s'est fait beaucoup anticiper par Rodriguez. C'est vrai que c'était très compliqué. Mais vraiment, c'était même Caressa, Fabio Caressa qui commentait les matchs, et Beppe Bergom, il était très, très surpris de son attitude. Et voilà, après, grâce au passage en 4-4-2 du Milan, il a réussi à éliminer Calabria qui joue au milieu et à marquer son petit but. Et un beau but d'ailleurs.
Bien. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, dernière question de notre ami Pierrot qui avait posé 2 questions. Aujourd'hui, tu avais parlé de la première sur l'Inter, etc. Et là, c'est où va atterrir Barella?
Ah bah Barella, il peut atterrir un peu partout. Hein. Parce qu'il y a beaucoup de clubs qui le veulent. Je pense que ce soit l'Inter, surtout, qui est très, très intéressé par son profil. Ozilio l'a confirmé d'ailleurs lors d'un point presse cette semaine. Milan aussi, forcément, la Roma. La Roma qui apprécie beaucoup Barella. Après, je pense que c'est vraiment aussi un choix du joueur hein, par rapport au projet, par rapport à ce qui lui est proposé. Je pense pas qu'il fera. Enfin, je vois pas vraiment. Certes, le salaire sera important, évidemment, dans ce qui lui sera proposé. Après, je pense aussi qu'il va faire beaucoup attention au projet et de où il peut atterrir, dans quelle forme est le club où il pourra aller. Voilà. Moi, je vois bien aussi à l'Inter qui pourrait aussi offrir beaucoup de temps de jeu. Donc, et la Roma aussi. La Roma, mais terrain qui avait des grands besoins. Milan aussi. Donc, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Mais moi, en tout cas, j'aimerais bien qu'il reste en Italie. Je sais pas toi, mais je pense vraiment qu'il a un futur aussi en Serie A. J'ai du mal un peu à le voir partir ailleurs. Mais je pense qu'en Italie, il peut forcément trouver un grand club.
Écoute, j'aimerais beaucoup qu'il vienne à la Roma. Je suis pas sûr qu'au niveau économique, ça soit forcément possible.
Tu penses que c'est combien? C'est cher?
40.
40? Ouais.
Oui, ah, c'est cher.
Oui, c'est cher.
Il a un statut d'international en plus, donc c'est
oui,
ça qui complique
exactement.
Aussi un peu la chose. Deux dernières petites questions que je viens de retrouver sur Twitter, qui nous ont été posées toute fin de l'enregistrement de ce podcast. Quel joueur manque à l'Inter pour qu'elle revienne au top? Bah, écoute, Ramsey, on en a parlé juste avant, il manque plus qu'un seul joueur pour que l'Inter revienne au top. Et puis, il y avait Roger 35. Donc, si on se fie au 35, il vient d'Ille-et-Vilaine, point géographie. Ne pensez-vous pas que Jardim, on l'a pas cité, soit le coach idoine pour oui. l'AC Milan, qui a des oui, jeunes oui, joueurs oui, très oui. prometteurs?
Oui, Roger 35. Oui, moi, je suis pas contre. Je pense que Jardim vraiment pourrait faire grandir cette équipe, pas ce club, parce que voilà, on sait quand même que Milan reste un grand club. Mais c'est vrai que dans les joueurs qu'il y a, moi, je pense vraiment qu'il faut un entraîneur qui libère les esprits, qui les fasse jouer au football. Il y a du football, comme tu disais, Ivan, dans cette équipe-là, Çalhanoğlu, Suso, Higuain. Enfin, c'est quand même pas les premières pipes du quartier. Donc, voilà, moi, ce que j'ai dit,
c'est joliment dit, ça, dis donc.
Oui, ben, j'avais envie de le dire. J'avais envie de le dire parce que quand on critique Higuain, qui mérite, ces critiques, mais je sais que c'est un grand attaquant qui pourrait faire beaucoup mieux. Donc, voilà, dans une équipe qui joue au foot. Moi, je pense que Jardim, alors je sais pas ce que tu en penses, mais Jardim, j'y ai pensé un peu hier. Je pense pas forcément que ce sera un mauvais choix.
Disons que ça serait peut-être le choix le plus cohérent entre, oui. On va dire, taper dans du Donadoni et un rêve qui semble un peu éloigné de Antonio Conte.
Mais tu sais que je sais plus qui c'est qui m'en parlait récemment et qui me disait, mais c'est dommage qu'en Italie, il n'y a pas beaucoup d'entraîneurs étrangers. Et d'ailleurs, c'est vrai que
il y avait une hype à un moment, parce qu'il y avait Rudy Garcia, il y avait Rafa Benitez, il y avait quelques-uns. Après, si on prend cette saison, il y a eu Velasquez, là, l'entraîneur de l'Udinese, et c'était une catastrophe.
Mais tu sais que les 20 entraîneurs de Serie A sont italiens.
Eh oui, monsieur. Mais c'est parce qu'il y en a un qui s'est fait virer, notamment, puisque Velasquez était espagnol.
Mais les 20 sont italiens, donc c'est vrai que, bon, pourquoi pas. Moi, Jardim, je serais vraiment intrigué de le voir. Donc, oui, Roger 35, c'est une très bonne idée. Et pourquoi pas Après, je pense pas qu'il viendrait, tu vois, jusqu'au juin. Je pense qu'il aura un projet quand même assez à long terme. Donc, oui, pourquoi pas. Un club avec plus de stabilité que Monaco, qui peut garder quand même les meilleurs joueurs. Donc, oui, moi, je peux voter Jardim.
Non, puis c'est un joueur qui, quand même, tactiquement aussi, a su répondre à pas mal de...
Exactement.
De problèmes, entre guillemets, proposés par d'autres clubs, d'autres entraîneurs de Ligue 1. Qui sait s'adapter, qui a essayé plusieurs schémas, etc. Donc, oui, c'est un joueur qui, c'est un entraîneur, pardon, qui peut tout à fait correspondre à la reconstruction, entre guillemets, de l'AC Milan. Et voilà. Roger 35, tu as la réponse de Guillaume 54. Voilà. Je tenais à le dire. Guillaume, on va finir ce podcast. Avec...
De 8 heures.
C'est ça. Exactement. Alors, en même temps, on vous fait un petit cadeau. Hein. Ça va être Noël. Vous aurez du temps. Quand vous allez devoir digérer la dinde et puis que vous allez tomber sur votre tonton qui déteste le foot et puis qui vous dit « Oh là là, les footballeurs, ils sont trop payés, etc. Bah, » vous serez bien content d'écouter ce podcast, on va pas se mentir. Et quand vous aurez passé 8 heures à table, eh ben, vous serez bien content d'avoir votre casque sur les oreilles et d'écouter ce podcast tranquillement. Prochaine journée, donc mercredi 26, on aura donc l'enregistrement du dernier podcast le jeudi 27 avant la fin de l'année. Et la trêve des confiseurs. Mercredi 26, 12h30, Frosinone, Milan. Défaite interdite pour Gattuso, sinon c'est la porte. Ensuite, le multiplex, Atalanta-Juve. Très beau match, je pense. Peut-être un turnover du côté de la Juve avec sans doute du robot pour Ronaldo et quelques cadres.
La première fois.
Bologna-Lazio, Cagliari-Genoa, Fiorentina-Parme et Samp-Chievo. Tout ça à 15h. À 18h, Roma-Sassuolo. Spal Udinese, Roma Sassuolo, c'est comme pour Gattuso, hein. Di Francesco, pas le droit à l'erreur. J'ai dit donc 18h, Roma Sassuolo, Spal Udinese et Torino Empoli. Et le choc, Guillaume. 20h30, Inter Napoli.
Il y a trois matchs à 18h.
Oui, monsieur.
D'accord. Très bien. Je note.
Allez, on s'arrête là pour aujourd'hui. Comme d'habitude, n'hésitez pas de nous mettre les petites 5 étoiles sur iTunes. Ça permet de faire découvrir le podcast à un maximum de personnes. Vous pouvez nous suivre sur Twitter, sur Facebook, sur Deezer, sur Spotify et tout le tralala. Et puis, dernier podcast, donc, jeudi 27. Et on va vous proposer dans les prochaines heures et minutes, selon quand vous allez écouter ce podcast, de faire votre équipe type de la demi-saison. Et puis, Guillaume en préparera une de son côté, j'en préparerai une de l'autre, et on confrontera un peu tous nos avis jeudi prochain. Voilà, Guillaume, merci à tous, passez une bonne journée, passez un joyeux Noël, en espérant que vous ayez été très sages, et donc bien gâtés. À bientôt.
Salut à tous.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.